truth unfold. Yeah, I know I told you walk away, didn't think that you would. Kinda hope that you would stay and fight like you should. Guess I paid myself a little too well. Said I wanna be left alone, but I never met all the way gone. I'm so dumb. All of my pride, all my stupid rough edges cuts me at night. It's what I get for being reckless. Where are you now?
Je sais, vous croyez que c'était moi qui chantais? Ah bah non, c'était pas moi. C'était une dame dont c'est le métier. C'est plus joli. J'espère que vous allez bien. Parce que c'est une espèce de playlist qui veut revenir toute seule. Oui, c'est joli ça. Je vais jouer. Bonjour tout le monde. Ne baissez pas les bras dans vos différentes épreuves. Joli. Joli, c'est bonjour en forme d'encouragement à la commu. Pourtant, tu as la même voix. Oui, c'est vrai. Vous allez bien? Désolé, j'avais prévu de lancer à 10h, il est 10h15. Pourquoi 10h? Je vous explique tout dans un instant. Pourquoi pas 9h30? Pourquoi pas 9h? On va lancer le stream. T'as refait le contour des cheveux? Non, j'en ai peut-être perdu depuis hier. je lance sur TikTok également. Plus on est de fous, plus on rit. Grosse migraine, force. Les migraines, c'est une douleur sous-estimée dans notre société, là. Il s'agirait d'en prendre conscience. Hop. Voilà. Ça y est, le double stream est lancé. On est tous là. Oui, alors pardon, pour le lancement du stream d'actu, de revue de presse de Matinée Etienne à 10h15 ce matin, parce que en général, on essaie de faire 9h30, mais hier, on s'est couché tard pour la bonne cause. Une petite découverte d'un jeu Pépite Path of Exile 2 avec l'ami AlphaCast, qui est vraiment un compagnon de route extraordinaire pour découvrir des jeux vidéo. C'est pas la première fois qu'il me fait l'amitié d'être là. Et c'était super. Donc je partais pour un petit live de 3 heures, moi, et puis on a fait combien? Attendez, c'est moi, on a fait un bon 4 heures, easy. Résumé du stream. 4h55. Ouais. On était parti sur 3 heures, on a fait presque 5 heures. Le jeu était vraiment bien, ouais. Et il a une vraie belle communauté de joueurs, parce qu'il y a eu Path of Exile 1, là on est dans l'Early Access, qui est assez étonnant. Et on a eu j'ai passé un bon moment, et le temps est passé vraiment très vite hier soir. Donc du coup on s'est couché tard, parce que une heure et quelques de retour à la maison, le temps de trouver le sommeil, hein, c'est pas comme ça, donc on s'endort vers 2h30. Et du coup je savais que je n'allais pas pouvoir lancer... Ouais, idéalement, je visais un 9h45, mais finalement, c'est plutôt 10h15. Bon, ça va, vous? Je regarderai après, je viens d'avoir un léger accident avec le camion juste de la carrosserie rayée. Ok, ça se force. Toujours énervant, ça. Force, force. Ça va, moi? Ça va, ouais. J-1. Le jeu est super chronophage, mais super fun si on aime le grind. Ah oui, je confirme. Mon épouse m'a demandé ce matin ce que j'avais pensé du jeu hier. Et je lui ai dit, je serai plus jeune, j'y passerai mes nuits, quoi. Voilà. Mais les journées sont un peu chargées. Donc c'est vrai que je me suis projeté dans le mois, je sais pas, un mois ado qui aurait un peu de temps à lui. C'est Path of Exile, Licorice 2, en Early Access. Et c'est un hack and slash. Maintenant, je m'y connais, c'est fou. Et donc, ouais, je pense que j'y buterai mes nuits, quoi. Donc, J-1. Salut, Hakim. Merci pour ton message. Salut, Phénomène. Le programme de ce matin, Mato, comme tous les matins, c'est la matinée Étienne. On lit les journaux. Voilà. On s'intéresse à l'actu. Je vous ai sélectionné des actus. Je vous ai sélectionné des articles. Voilà. On en parle ensemble. On en débat tranquillement 3-4 heures. On chill. Et J-1 avant. J-1 avant le. Avant, oui, Resox, le The Event. Demain, alors, je sais pas si je stream ce soir, j'ai des grosses envies de Valo ce soir. Mais, il y a un monde où je prépare mon sac quand même. Et quelques petits matériels, accessoires pour les Donation Goals. Donc, il y a un monde, si je suis raisonnable, où ce soir je stream pas. Demain matin, je me lève pour. Garde-toi pour le The Event Scream Killer, en vrai, t'as raison. Demain matin, je me lève et on prépare le setup, on prépare les alertes des dons, très important ça, sur le PC. On prépare tout le matos parce qu'on emmène tout à Montpellier en train avec Joe. Toujours sympa d'être accompagné, merci à lui, en vrai, c'est cool. On part en début d'après-midi, on arrive enfin, vers 18h à Montpellier. Ah, stream prépa? Ah ouais, pourquoi pas en vrai? Ouais, un stream prépa. C'est pas bête, un stream prépa. Avec l'iPhone, ouais. Ouais. Si, si, si. Ouais, en vrai, ouais. On peut faire un stream prépa avec l'iPhone demain, ouais, avec Joe. C'est une bonne idée. Ouais. What's in my bag version The Event. C'est pas bête. Merci Théo pour cette contribution au débat sur l'actualité. Ton gros pénis. Tu es bien informé, disons, mon Théo. C'est fou, ça. C'est incroyable, hein. Oui, oh, les pastilles pour la gorge, j'allais oublier. Ah ouais, l'an dernier, c'est ce qui m'avait sauvé. Parce qu'on avait quand même bien gueulé, Sam. Et il y en a des super. Ça m'avait sauvé, j'avais pu hurler pendant 3 jours. Pastilles pour la gorge. Et donc, demain matin, on prépare le setup. On emmène tout ça en train. Demain soir, on arrive, on pose le matos. On commence à installer le concert, voilà, du The Event, avec notamment IAM quand même. Et après on revient éventuellement setup. Le lendemain on setup, on a jusqu'à 18h en vrai. Petite réunion avec Zera, tout ça. Je passe à midi voir la tatoueuse, puisque maintenant je peux le dire, c'est une tatoueuse qui va nous tatouer pour les 500 000 euros, pour les 500K de Donation Goal. Et après 18h vendredi, le concert est diffusé sur Twitch. Oh, je pense que le concert va être diffusé. J'ai pas l'info, mais en vrai, sûrement. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que c'est sur la chaîne de Zera, soit Sugar me dit toujours. Mais est-ce que c'est sur la chaîne de Zerator ou sur la chaîne du The Event? Sugar me dit peut-être la chaîne du The Event. Ok. C'est pas sur la chaîne de Zera, c'est sur la chaîne du The Event. Merci Carillon, merci Sugar pour les infos. Donc le concert qui a lieu ben, demain soir, hein, qui est fou en vrai, hein. On va aller voir. Attends, on va aller sur le site du The Event. Merci Noxkill pour ton message. Tiens, on va aller voir. On va aller voir, je vous rappelle, qui est au concert. Tac. Tac. Voilà. Donc le The Event. Bim. Le concert, ici. Voilà. Le concert événement du The Event. Quelle heure? Quelle heure? Quelle heure? Quelle heure? Quelle heure? Il n'y a pas l'heure, il n'y a pas l'heure, il n'y a pas l'heure. Bon, c'est demain soir. Voilà. À suivre effectivement en direct sur twitch.tv/TheEvent. C'est 20h? C'est 20h, vous êtes trop fort. Voilà. IAM, alors évidemment, pour des vieilles personnes comme moi, pour les personnes âgées au bord de l'EHPAD, ça parle quoi. Hein? Le rap, les papas, les papys du rap quoi. Bon, ça, moi, je kiffe. Avec le match de l'époque. IAM NTM, IAM, Alonso, Carbone, Orchestre Curieux featuring Clair Obscur Expédition 33 avec Laurien Testard, le monsieur, mesdames et messieurs, et qui a composé la musique de ce jeu de fou qui est donc Clair Obscur, avec PV Nova, avec Alice Duport-Percé, qui est une grande chanteuse lyrique, si je dis pas de bêtises, featuring Marianne PV Nova. Attends, c'est-à-dire que Marianne et PV Nova, ils vont être associés à Clair Obscur. Ok. Voilà. Sold out, je sais, parce que j'ai essayé de récupérer une place. Pour quelqu'un, ça a été très compliqué, donc c'est full, quoi. Voilà. Et là, vous avez les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 assos. C'est qui sold out? C'est un pote. Hakim, VDR, t'as plus d'argent, tu viens sur TikTok. Oui, c'est vrai, Hakim, j'attends ton don avec impatience. Tu sais que ma subsistance, le fait de pouvoir me lever le matin dépend entièrement de toi, mon Hakim. Voilà. N'hésite pas à conjuguer les verbes. Voilà. Et TikTok, c'est avec un K. J'attends tes donation goals aussi pour le The Event. Plus important encore qu'un sub pour me permettre de manger. Et de subsister, n'hésite pas à donner pour le The Event. Il y a 8 belles associations. On est sur l'accompagnement des aidants, on est sur la lutte contre le cancer, on est spécifiquement avec 4 associations avec les enfants, notamment la question des cancers infantiles. Ça va être incroyable. Voilà, donc on va tout donner. De rien, Hakim. De rien, Hakim. Mais c'est important l'orthographe. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Mais quand on essaye de tracher, on est plus crédible quand on fait des efforts sur l'orthographe. Mais tout va bien. Et hop. Voilà. Donc, demain soir le concert. Et 18h vendredi, Zera lance le The Event 2025. Voilà. Et on fait les foufous pendant 3 jours pour vous inciter à donner plein de dons pour ces belles associations. En espérant notamment qu'on atteigne les 500 000 euros, c'est-à-dire 40 000 euros de plus que la cagnotte que j'ai eu la chance de collecter l'an dernier, 460 000 euros, pour pouvoir nous faire le petit tatouage en live là, qui va être rigolo. Enfin, petit, ça va être une belle pièce. Et puis le 1 million. Le 1 million d'euros. Si on fait le 1 million d'euros, bon, c'est un peu fou, hein. Je crois que la seule personne qui l'a atteint à ce jour en cagnotte perso du The Event, c'est PA, c'est Domingo, le gigantesque. Qui a annoncé, je crois, hier le retour de Popcorn en mensuel, hein, avec qui a dépassé 1 million, 1 million 2, je crois, l'an dernier. Donc c'est un peu fou. Mais le projet derrière, il est à la hauteur de cette folie, puisque à 1 million, on se présente à la présidentielle. Voilà. Hakim va te faire foutre un moment. Hakim, c'est le fou du bus ce matin. Alors Hakim, moi, je veux pas juger l'orthographe, parce que parfois, c'est aussi des problèmes 10 et autres, donc je vais arrêter de te chambrer là-dessus. Mais là, un peu prétentieux. Monsieur, tu casses les couilles, quoi. Donc un troisième comme ça, tu dégages. Là, tu dégages, c'est fait. Allez. Hop, salut. Il y a plein d'autres chaînes TikTok. Faut pas déconner. Par contre, je serais un président beaucoup plus chill. Mais là, faut pas déconner. Là, c'est pas la démocratie, c'est ma chaîne. Salut, Nat Factory. Et donc, Hakim va finir au Groenland. Non, Hakim, il peut plus écrire dans le chat. On est plus tranquille comme ça. Il est un peu énervé. Il a mal dormi. Je sais pas, il va revenir. Il va pas pouvoir revenir, mais il va s'apaiser tout seul dans son coin. Et donc, si on atteint le 1 million, on se présente à la présidentielle. Alors, je dis bien on parce que c'est un projet collectif. On co-construit un programme pour la présidentielle en live. Voilà. On se penche sur l'actualité, comme on le fait tous les jours depuis 5 ans ici. On se penche concrètement sur les problèmes de la France et on se dit un peu naïvement, un peu bêtement, un peu de façon citoyenne comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour régler ce truc-là, par exemple? Voilà. La dette, la question des retraites, le système social précieux qui est le nôtre, la question de la sécurité, la question de l'environnement. Et on se penche, stream après stream, sur tous ces sujets et on évoque les éventuelles solutions. On s'interroge, on débat ensemble, voilà, et on essaie de se mettre d'accord via l'outil des sondages sur des mesures. On fait un programme, on va chercher les 500 signatures, on se présente au premier tour, on arrive en tête, grosse surprise, la France est choquée, voilà, le paysage politique français, la classe politique française est totalement déstabilisée et choquée, j'ai envie de dire, est choquée, ne sait pas réagir, ne comprend pas ce qui se passe, Voilà. Et on gagne la présidentielle. Et après, c'est la fête. Ça, c'est le projet, mais il faut arriver à 1 million d'euros sur ma cagnotte ce week-end. Est-ce qu'on peut être ministre de manière communautaire? Il y a peut-être une nouvelle façon de faire la politique qui est inventée, ouais. Tu feras des streams à l'Elysée? Ouais, bien sûr, ouais. Tous les matins. T'auras accès au bouton nucléaire? Oui, mais enfin bon, c'est pas la priorité, ouais. Premier degré, est-ce que tu crois pouvoir atteindre le million? Car je trouve que c'est donner envie et l'espoir pour rien sinon. Première édition, on a fait presque 1,5 million l'an dernier, les gars. J'ai essayé de faire des donation goals bien plus fous que l'an dernier. Hein. Le tatouage en live, une pièce comme ça, en vrai, 4 heures de souffrance pour les assos, pour le content, et d'autres trucs. En tout cas, je fais tout, quoi. Je fais tout, quoi. Tu te lances vraiment dans la politique? Tout est politique. Parler de l'actualité, essayer de comprendre ce qui se passe dans l'actualité, émettre un avis sur l'actualité, émettre des idées, exprimer ses valeurs sur un sujet, c'est politique. La politique, c'est pas un mot sale. La politique, étymologiquement, c'est s'occuper de la vie dans la cité. Dans la cité au sens grec du terme. Et c'est donc s'intéresser du collectif, au collectif, de la vie ensemble. En soi, la politique, ça n'est pas juste le jeu des petites phrases et des ambitions personnelles. Normalement, c'est s'occuper, c'est dépasser son nombril et s'intéresser à ce qui se passe autour de soi. La politique en soi, c'est pas ça. Donc, le matin, en parlant de l'actualité ensemble, on fait un acte politique. En tout cas, vous faites mine de prendre ça très au sérieux, ça me fait très plaisir. N'empêche, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir le droit de se faire tatouer? Oui, Evernat. Alors c'est vrai que moi, je régulièrement, je me fais tatouer des dragons exclusivement. Mais là, j'avais un peu perdu la motivation. J'avais 1, 2, 3. J'avais 3 grandes pièces. J'avais pas trop l'envie, le désir de m'en faire un quatrième. Voilà, parce que ça, c'est un truc très personnel. Il faut que ça vienne un petit peu de l'intérieur du cœur. Et puis, et clairement, à un moment, je me suis dit, pour le caritatif, pour les assos, pour les 8 belles assos, dont on parlera beaucoup pendant ces 3 jours de stream, bien sûr. Hein. Je vais essayer de recevoir aussi les représentants de ces associations. Pour le coup, c'est une jolie source de motivation. Donc, on repart sur le tatouage. Jojo Bar, merci pour le Prime. Rams, merci pour le Prime. Nerd, je t'ai vu dans le chat, mais je n'avais pas vu le raid, parce que je ne suis pas réveillé. Nerd Factory, allez voir les modos. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, à épingler la... Salut Vincent, ça fait plaisir. La chaîne de Nerd Factory, qui nous arrête tout à l'heure, qui présente propose une excellente matinale. C'est déjà fait? Ok, parce que je la voyais pas dans mon chat à moi. Ok. Elle est déjà partie? Si. C'est une mini-pub alors. Ou alors c'est mon chat qui déconne. Tu suis déjà à la chaîne, c'est pour ça. Oui, mais... Non, mais je parle d'épingler, c'est pas un shout-out. Juste, ça a été épinglé ou pas? Oui, moi j'aime bien épingler en fait, je trouve que c'est plus visible pour les viewers qui nous suivent. Merci beaucoup. Salut mon Joe. Joe, il y a un monde où demain le setup on le fait en live, je lance l'iPhone. Merci Sugar, t'es génial. Voilà, donc Nerd Factory qui nous propose une matinale tous les matins assez tôt, c'est un lève-tôt. Et Joe vient d'arriver dans le chat, et Joe, il y a un monde où demain notre petit setup, notre prépa, on peut la faire en live à l'iPhone. On verra. C'est la commu qui a proposé ça. Actualité du jour, on y va. Merci Sky pour le message. Donc je disais, ouais, merci Jojo Bar pour le Prime, merci Rams pour le Prime, merci Nerd pour le Raid, merci Lémurien Obèse pour le 40e mois, merci Laetitia RD que j'avais pas vu pour le 3e mois, merci Captain Oui, merci Sky, merci Joli Cœur. Bon, les actualités du jour, on y va dans un instant, mon Fortnite Girl, ou ma Fortnite Girl d'ailleurs. C'est juste que j'aime bien dire bonjour aux gens, je prends un petit peu le temps. Est-ce que tu as... Très bonne question de Marley. Tu n'as pas peur d'être accusé de faire du populisme à cause de tes live Twitch en politique? Ah si, complètement. Ah bah si. Et imaginons que ce truc aille à son terme, imaginons qu'on le fasse vraiment. Et imaginons que je fasse ce que je viens de dire, la co-construction du programme présidentiel, on en parle tous les jours en direct, etc. Clairement, si ça rencontre un écho, Ça suscite quelques interrogations slash inquiétudes. Si, si, ça va. Je pense que de la part des médias traditionnels, éventuellement même de certains responsables politiques, oui, on va prendre cher, on va bien rigoler. Comme le dit Ursien 81, deux points ouvrez les guillemets, je pense que tout le monde va te tomber dessus. Hein? On n'est pas à ça près. Hein? On est vieux, on a le cuir tanné, on est habitué. Hein? User, j'ai pas. Alors, User. Rebonjour, pourquoi ne répondez-vous pas à ma question sur l'Europe? Parce que vous êtes presque 400 sur TikTok, parce que vous êtes 2000 déjà sur Twitch, et que j'arrive. Et même si j'adore lire et lire vite, je n'arrive pas à lire tous vos messages. Et mon ami, je n'ai pas vu ta question sur l'Europe. Voilà. Donc ça n'est pas, je ne, je, ça n'est pas de la censure, je n'ai tout simplement pas vu ton message. Salut Samuel, tu estimes à combien de pourcents d'atteindre le goal des 1 million? En fait, j'y crois vraiment, moi. Hein. Moi, je dirais une chance sur deux, en vrai. J'y crois vraiment. Oui, Vincent, j'ai lancé. Maintenant, la matinée Étienne, la revue de presse, je la fais également sur TikTok. Comment tu vas faire pour question pour un champion sans sourcils? Puisque c'est un évolution goal, c'est de me raser les sourcils. Écoute, le prochain tournage de question pour un champion n'est pas calé. Il n'est pas calé. Il pourrait intervenir au mieux en mars ou en avril prochain. Donc pour le coup, ils ont le temps de repousser. Très bonne question de WorldGin. Vu qu'ils ont rajouté des choses dans le The Event, oui, dans le règlement général. C'est très bonne chose d'ailleurs. Pour éviter que des personnes politiques y participent, tu n'as pas peur que ça pose problème, slash que ça fasse débat. Bah, à ce jour, je ne suis. Quand tu vas lire le règlement du The Event sur la question, qui est une très bonne chose. Cassos, t'as plus de cheveux. Non, bah non, bah non. On en avait parlé, Cassos, déjà lors d'un live précédent. Tu m'avais promis de m'envoyer tes poils de cul par la poste. J'attends toujours le courrier. Pour la greffe, donc si tu pouvais un petit peu te bouger justement le HUC, ce serait formidable. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, le règlement du The Event exprime le fait qu'il ne souhaite pas de personnalités politiques participant en tant que streamer ou streameuse au The Event. Voilà. Et clairement indique parle d'élu. À ce jour, je ne suis pas élu. Voilà, il faut avoir un mandat. Si je deviens président de la République, je ne pourrai plus participer aux émeutes. Il est d'humeur expéditive ce matin. Oh oui, Zirtis, il y a des matins, ça va, ça va. Hein, les fâcheux, là. Hein. Et puis ça nous fait rire, ça crée du content. Hein. Les 500 signatures, ouais. Et même pour les 500 signatures, tu penses qu'ils te prendront au sérieux? Ouais. Oui, parce que je fais le clown, mais bon. Je peux aussi être sérieux. J'ai été journaliste pendant plus de 30 ans. Je me passionne pour l'actualité, mais aussi la chose politique depuis toujours. D'autres avant moi ont eu les 500 signatures, alors que c'était parfois des candidatures un peu anecdotiques à la présidentielle. De même que certains candidats sérieux n'arrivent pas à les avoir, donc c'est un vrai sujet. Mais moi, je me sens en capacité d'aller voir. Il faut 500 signatures d'élus en France, y compris des maires de petites communes. Je me sens en capacité d'aller voir ces élus et de leur expliquer le sérieux et la pertinence de mon projet, en leur disant notamment que ça peut réintéresser une partie du public des plateformes au débat sur la politique en France, quoi. Tu vois? Non, 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 je le ferai sérieusement. Mais là, je troll, je rigole. Mais si on se lance là-dessus, je le ferai très sérieusement. Ouais. Pourquoi ils ont arrêté question pour un champion de la semaine? Julien, on a fait un stream sur Twitch là-dessus, quand on l'a appris en juin, je crois. Et si tu vas sur Twitch, tu vas trouver le replay ou YouTube également sur ma chaîne. Si tu vas sur le chat Twitch, tu tapes point exclamation QPUC et tu vas voir le replay sur YouTube et tu auras toutes les réponses. Donc, 25 minutes, d'intro, 3 minutes encore et puis on y va sur l'actualité. Donc, est-ce que pendant le The Event, tu feras part de ta vision sur de grands sujets importants ? Alors non, parce que je ne veux pas mêler le The Event à tout ça, on va en parler un petit peu, mais... bon, en même temps, je ne serai pas candidat au The Event, je serai candidat que si je passe le million, du coup, ici, on peut en parler. Mais disons que je parlerai... Je pense pas que je vais parler beaucoup de politique et de l'actualité pendant le The Event, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de se servir du The Event pour faire passer des messages. Le The Event, c'est le The Event. Le The Event, c'est les assos. Le The Event, c'est les dons pour que les assos puissent faire des choses formidables pour les gens. Donc attention, il ne faut pas tout mélanger. Le The Event, c'est pas fait pour que les créateurs de contenu se mettent en avant, même si, ce faisant, ils le font. Donc non. Mais pour te rassurer, mon programme, il sera celui qu'on va construire ensemble. Donc si, Astronaut, tu viens dans, dans ces lives supposés de co-construction du programme présidentiel de Papy Sam, tu seras au courant d'abord de ce qu'on essaye de faire, et puis surtout, tu pourras participer. Si tu es candidat, tu ne pourras plus stream librement à cause du temps de parole. Très bonne question de Paradis. Paradis ou Paradin ? Attends. Paradin ? Le temps de parole, dans le cadre d'une campagne, à ce jour, n'est pas encadré par la loi et par l'ARCOM. C'est un peu étrange, mais il n'est pas encadré non plus en presse écrite, parce qu'il n'y a pas de temps de parole en presse écrite. Donc, Il n'y a pas, l'exception ne concerne pas que Internet et le numérique. Donc cet encadrement du temps de parole politique selon les partis, les sensibilités, dans le cadre d'une campagne, hein, ça existe à la télé, ça existe à la radio si je ne dis pas de bêtises, ça n'existe pas pour Internet, ce serait sans doute trop compliqué à réguler, en tout cas c'est ce qu'ils se sont dit jusque-là, et d'ailleurs ça n'existe pas pour la presse écrite non plus. Donc Internet n'est pas la seule exception. Un journal peut parler autant d'un homme ou d'une femme politique qu'il le souhaite, ça n'est pas encadré. Donc voilà. Donc non, on pourrait en débattre aussi longtemps qu'on voudrait, quoi. Promis, si je gagne l'euro million, je te fais un don d'un million juste pour que tu te présentes. Merci, ce serait incroyable. Merci Chunky Lovni pour le Prime, merci à toi. Merci Benjamin Duplat, merci Petit Éclair. Si tu es élu président, est-ce que tu continueras de faire des lives et débattre avec nous ? Oui, Gabin. Comment tu comptes financer ta campagne ? Ah bah ça, j'ai pas... Alors, ma campagne, parce que... Il y a Earthdead qui vient d'écrire, c'est trop mignon. Comment tu comptes financer ta compagne ? Comment je compte financer ma compagne ? Donc mon épouse, mon amoureuse Hélène. Je ne compte pas financer Hélène. Hélène est autosuffisante. Elle travaille, c'est une femme indépendante, elle est formidable, c'est la plus belle femme du monde, évidemment, la plus parfaite aussi. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec moi, d'ailleurs. Et donc, je ne compte pas financer ma compagne, elle n'a pas besoin de moi, mais pour ma campagne, alors là pour le coup, oui, là ça pose une vraie question. Ouais. Après, si on fait une campagne exclusivement numérique à base de live Twitch, TikTok, d'extraits sur les réseaux... Il y a un monde où les coûts sont assez réduits, quoi. Mais je trouverai une solution. Je ferai un emprunt ou je lancerai une cagnotte, je sais pas. On va pas élire un présentateur météo à la présidence. Merci Reptilien Anonyme. T'as un magnifique pseudo. Reptilien Anonyme. On ne va pas élire un présentateur météo à la présidence. Alors je vais te rassurer là-dessus parce que ma carte de présentateur météo, elle a duré... Attends, laisse-moi me rappeler. Ma carrière de présentateur météo, elle a duré 0 seconde. Je cherchais. J'ai jamais été présentateur météo. Je me régale. Moi, à une époque, le plaisir pour moi au quotidien, c'était la pâtisserie. Je suis très gourmand de gâteaux et de chocolat aussi. Et puis j'ai un peu arrêté tout ça, le sucre. Mais mon plaisir aujourd'hui, c'est le chat. Hein. Quand je lis des commentaires comme ça, on est d'accord que c'est meilleur que le meilleur des gâteaux, quoi. C'est meilleur que le plus fin des chocolats. Hein. Un mec qui pop dans le chat, voilà, on va pas lire un présentateur météo, un gars qui a jamais présenté la météo de sa vie, mais c'est des bonbons, quoi. Vous êtes, mais c'est du génie à ce niveau-là. C'est pas possible. Vous les écrivez la nuit, hein? Ce genre de commentaire, c'est un truc que vous pensez ? Vous faites ça avec IA ou quoi ? C'est avec de l'IA ? quand vous faites ça? Vous êtes plusieurs, non? C'est un truc que vous faites en équipe? Alors, quel bonheur. Quel bonheur. Merci Nina. Bon les amis, j'arrête de rigoler. Merci d'être là d'abord. Merci d'être aussi nombreux. Est-ce que on partirait pas sur l'actualité? La matinée Étienne, je rappelle, ça fait 5 ans qu'on l'a fait sur Twitch. Elle est arrivée aussi récemment sur TikTok. La matinée Étienne, tous les matins, on lit les journaux. Voilà. Alors pas tous les journaux, parce que j'ai pas le temps de lire tous les journaux. J'ai fait un choix éditorial. Je suis en train d'ouvrir ma tablette. Je veux bien que tu t'ouvres, petite tablette, par contre. Face ID. Mais oui, c'est moi, c'est pas parce que j'ai des lunettes. Voilà. Ok. Donc tous les matins, je lis ces journaux-là. Je vais vous expliquer pourquoi ceux-là et pas d'autres. Je lis les quotidiens nationaux. Les quotidiens nationaux, ces journaux qui sortent tous les jours, en semaine, et qui sont nationaux, qui parlent de toute l'actualité nationale et internationale. C'est une des raisons pour lesquelles je les aime, parce que tous ces quotidiens essayent de balayer l'ensemble de l'actualité nationale, régionale, internationale, politique, économique, sociale, sportive. Donc, pour répondre à Padma & Co, les voici. Le Monde, Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, l'Humanité, pardon, Les Échos, L'Équipe. Voilà. C'est des journaux que je lis depuis toujours, c'est des journaux que j'aime lire, donc c'est un plaisir que j'essaie de partager. Je pourrais lire la presse régionale, la presse quotidienne, qui est une excellente presse, la presse en région, voilà. Mais à un moment, ça ferait trop de matière. Et puis la presse régionale s'intéresse un peu moins à l'actu nationale et internationale que cette presse-là. Je pourrais lire la presse magazine. On a une excellente presse magazine, notamment sur l'actualité en France, mais là aussi je peux pas tout lire. Je pourrais lire une excellente presse qui n'existe que sur internet, type Mediapart aussi, que je vais lire de temps en temps aussi d'ailleurs. Mediapart, excellent média, mais je peux pas tout lire. Je pourrais lire la presse internationale également, voilà. Mais à un moment on fait un choix, c'est un choix éditorial. Si cette presse là vous intéresse pas, moi je l'aime bien, cette presse quotidienne nationale, il faut aller créer votre revue de presse ou aller voir une autre revue de presse, mais c'est ce que je vous propose, c'est un choix éditorial. Les Jours, Les Jours, c'est un site d'info qui est très bon. C'est des anciens de Libé qui ont fait ça. Courrier international, excellent, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est le concept. On fait ça depuis 5 ans sur Twitch, on le fait sur TikTok depuis peu, et on commence cette revue de presse par un sommaire où je vous donne l'essentiel de l'actu. Sortie de lycée, ça m'amuse, c'est incroyable. Attends, Bandit, il est 10h45, c'est déjà fini le lycée. Putain, c'est ça raccourcit les journées à l'école. Bon, bonne journée à toi. En même temps, c'est mercredi, là. Et donc, on commence par un sommaire, je vous donne l'essentiel de l'actualité. Et après, on lit tous ces articles, tous ces sujets. On essaie de comprendre, voilà, on échange, on en débat de la façon la plus chill possible. Ici, moi, j'adore discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, à condition que ce soit un minimum correctement exprimé, quoi. Voilà. Et dans ce cadre-là, après, on peut échanger énormément, quoi. Merci Georges Gomelou pour le Prime, merci GTP Colin, merci Jurwala, merci à tous les trois, merci Coffre au Trésor. Ah non, Coffre au Trésor, c'est pas quelqu'un, c'est un coffre au trésor, ça je connaissais pas ça. Merci Petit Éclair, merci RS1. On y va? C'est parti? Allez, go. Top. Ça, c'est l'ami Trivia, Little Big Whale, avec qui j'ai fait plein de streams. Et de quoi je vous parle ce matin? Ce matin, non, ça c'était l'actu d'hier. On va parler de politique, notamment de politique, parce que, bon, c'est quasi sûr, il y a presque zéro suspense. Il y a de fortes chances que dans quelques jours, le 8 septembre pour être précis, François Bayrou saute, n'est pas le vote de confiance qu'il a demandé auprès des députés. Et la gauche, et les socialistes, et les écologistes, et les filles, et le RN, et d'autres lui ont dit mais d'où tu veux notre confiance, quoi? T'es pas notre premier ministre. Donc bon, voilà, et a priori, il va sauter. Et la question, c'est quoi? Quoi après? Ah bah oui. Dissolution? Macron dit qu'il veut pas. Nouvelle présidentielle? Démission? Macron dit non, dans vos rêves. Nouveau premier ministre? Ok, lequel? Plusieurs dossiers ce matin. Une de l'opinion. Le RN à Matignon, le Rassemblement National à Matignon, Marine Le Pen, Jordan Bardella, je sais pas, hein. Le parti Est-il le seul à pouvoir assurer une France gouvernable? Question que pose l'opinion. C'est une question il y a quelques années qui aurait paru surréaliste, quoi. L'idée séduit ou inquiète, voilà. Et on a un dossier dans l'opinion sur dans quel monde Macron pourrait appeler dans les prochains jours un Premier ministre du RN à Matignon. Voilà, donc l'opinion se penche là-dessus. Pendant ce temps, les socialistes de leur côté disent « c'est notre tour ». Vous savez que le RN et la gauche se disputent le fait d'avoir chaque camp, ça dépend des chiffres qu'on prend, gagné les dernières législatives. Et donc les socialistes disent bah, « c'est notre tour hein. ». Vous avez, on a essayé des ministres macronistes, des ministres de droite avec Macron, alors qu'en fait on a gagné les élections, hein, c'est le discours de la gauche. Les socialistes disent « c'est notre tour ». Comment le Parti Socialiste compte trouver une majorité pour gouverner? Autre hypothèse, c'est un papier ici dans le journal La Croix qu'on lira ensemble. Et puis, bah le maître du jeu dans cette histoire, c'est le président Macron, puisque dans la constitution de la 5e, celui qui décide du nom du ou de la première ministre, c'est le chef de l'État, bien sûr. Alors qu'est-ce que nous prépare le président Macron pour l'après Bayrou? Dossier dans Les Échos. Je pense qu'entre ces trois articles, on va à peu près cerner les enjeux de ce qui va se passer dans les prochains jours. Comme ça, quand les actus vont pop sur le sujet, ben vous serez... vous aurez un petit peu les infos, quoi. Et là, c'est Samuel Etienne. Ah non, bah non, moi, je veux pas aller à Matignon. Hein. Le vrai pouvoir, il est à l'Élysée. Hein. À condition d'avoir une majorité à l'Assemblée. Avec ce petit bémol. Donc, non. Ici, c'est 2027. C'est pas... On va pas nous acheter avec un petit Marocain. Marocain, M-A-R-O-Q-U-N. C'est un vieux mot pour dire portefeuille ministériel. Excusez-moi, j'ai les mots de mon âge. Ça n'a rien à voir avec le Maroc. Et donc c'est 2027 ici. Voilà. Sam Emu qui veut les codes nucléaires. C'est vrai que c'est un vieux mot ça. Tiens, je vais vous le montrer d'ailleurs. C'est marrant parce que je pense que c'est un mot que plus personne n'utilise à part les très vieux journalistes marocains. Ça s'écrit comme ça. Tiens, je vous montre. Voilà. Alors un marocain, c'est une peau de chèvre, de mouton tannée et teinte, mais en politique, ça a une autre signification. Par extension, c'est le nom qu'on donne à une fonction ministérielle. Là, on parle aussi de portefeuille ministériel. Et le cuir de ce portefeuille ministériel étant de haute qualité, eh bien, du coup, il y a eu association avec marocain qui est une, étymologiquement une peau d'animal, de chèvre, de mouton. C'est comme ça qu'on est passé de ministère hein, à portefeuille à marocain. Bon, c'est un vieux mot. Hein. C'est un vieux mot, c'est un détail. J'ai jamais entendu. J'ai entendu m'acheter avec un Marocain, je me suis dit waouh. Oui, ça surprend la première fois. Mais bon, c'est un vieux mot. Hein. C'est un vieux mot. Donc, Macron prépare l'après Bayrou. On lira ça après. Voilà. Mais en vrai, je crois que ce mot est un peu suranné, n'est plus très utilisé. Ensuite, je vous parlerai de quoi? Ben, d'un des débats actuellement qui intéresse notamment la classe politique. Vous savez que dans justement le programme de la gauche et des socialistes, il y a la taxe Zucman, hein, qui est une taxe sur le patrimoine des Français les plus riches. On parle d'un patrimoine de 100 millions d'euros. Ça concerne très peu de gens. Hein. 100 millions d'euros. Et donc, il y a une taxe de 2% chaque année sur le patrimoine de ces Français très, 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 très riches. Hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup dans le chat concernés, voilà, et qui provoque beaucoup de débats, et notamment les adversaires de cette taxe Zucman disent ouais, faites ça, mais c'est un one shot. Vous mettez une taxe à 2% sur le patrimoine des gens qui ont plus de 100 millions d'euros en France, ils vont la payer une fois, puis ils vont se barrer. Ils vont se barrer à l'étranger. Hein, c'est l'argument qu'il y avait contre l'ISF aussi à l'époque. Voilà. Et y a une étude qui est sortie, qui est notamment citée par un journal qui est pas un journal de gauchiste, hein, qui est le journal Les Échos, plutôt un journal libéral. Et qui nous explique qu'en fait que non, comme on le sait déjà depuis longtemps, mais c'est confirmé par les études sur le sujet, en fait ce serait marginal. Les très très riches qui quitteraient la France en raison d'une taxe comme celle-ci, ils sont très très peu à partir. Mais, il y a un autre truc intéressant dans l'article, en revanche, ce qui est à craindre dans l'hypothèse où cette taxe Zucman était appliquée, c'est que par d'autres biais, par d'autres méthodes, ces ultra-riches, parce qu'à 100 millions d'euros, je pense qu'on peut parler des ultra-riches, serait quand même, il resterait, mais il serait en grande partie échappé, notamment avec des stratégies d'optimisation fiscale, quoi. Donc on lira ce papier. Et donc le rendement de cette taxe ne serait pas celui attendu. Salut Mathieu. Alors on n'a pas prévu de parler de médecine et d'urgentiste ce matin. On balaye toute l'actualité tous les matins, donc il n'y a pas de focus. Merci pour ta proposition en tout cas, mais on n'est pas sur un format d'interview, on est plutôt sur un format de revue de presse que je pratique depuis 5 ans ici tous les jours. Merci Kodak pour le soutien. Ah, alors ça c'est vous qui m'en avez parlé. Ces derniers jours, j'ai vu pop dans le chat des messages en mode « Mais tu parles pas des mains de Trump ? Des mains de Donald Trump, des mains du président américain ? Tu parles pas de sa santé, il paraît qu'il va mourir et tout. » Bon, alors, je vois parfois des messages comme ça, je me dis « Mais c'est quoi cette histoire ? J'ai rien vu là-dessus. » Et puis, je finis par comprendre en vous lisant que sur les réseaux sociaux, il y a des interrogations sur la santé du président américain. Et, Et là, je vois un article dans Le Parisien là-dessus. Bon, ben, du coup, je vous le mets de côté. Ce que les mains de Trump nous disent de sa santé, vous avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux des interrogations sur la question. Voilà. Alors, plutôt que de laisser cours à toutes les rumeurs et à imaginer des trucs de fou, ben, on va aller lire cet article pour voir ce dont il retourne exactement. Il y a Gaëtan qui me dit qu'il en a parlé hier à 14h, heure locale aux États-Unis. Merci Gaëtan pour la précision de l'info. Et il a démenti. Voilà. On lira ce papier sur la santé de Trump. On parle de choses plus ou moins graves et légères dans cette revue de presse, et là c'est une chose qui est infiniment triste, c'est le suicide d'une enseignante. Ouais, il y a beaucoup d'articles ce matin sur le sujet. Ça s'est passé dans le Cantal. Caroline Grandjean, qui était enseignante, qui était directrice d'école aujourd'hui, s'est donné la mort le jour de la rentrée. Voilà. Victime dans l'école où elle avait enseigné d'insultes homophobes, voilà, de la part d'un corbeau, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été identifié. Voilà. Et cette dame, qui a notamment été mise en arrêt maladie et qui n'a pas pu reprendre la rentrée, là, a accusé notamment la hiérarchie de l'éducation nationale de ne pas l'avoir protégée, de ne pas l'avoir accompagnée. Voilà. Comme le dit professeur des écoles dans le chat, encore une prof non défendue. Donc là, on a un sujet là-dessus. Sur l'homophobie, comme le dit Fafou, elle lançait des SOS sans résultat. Voilà. Le fameux pas de vague, hein, que les enseignants connaissent bien. Salut Chapercher. Et donc, il y a un sujet sur l'homophobie en France. Voilà. Il y a un sujet sur l'homophobie en France. Donc ça veut dire que on est encore une société où les propos homophobes s'expriment. Donc c'est un premier sujet. Et le deuxième, c'est quid de l'accompagnement des enseignants qui font un métier formidable, mais qui sont pas toujours... prof, gauchisme assumé. Ok, c'est un commentaire dans le chat. Donc, on vient de parler du suicide d'une personne. Évidemment, ce genre de propos, nous n'en voulons pas. Et donc, tu ne pourras plus t'exprimer dans ce chat. Voilà. Ici, moi, je suis prêt à débattre avec tout le monde, mais il faut qu'il y ait un minimum de lumière et d'intelligence. Tout propos discriminant, raciste, sexiste, homophobe, voilà, violent vis-à-vis de qui que ce soit, évidemment, ça dégage instant. Salut. Voilà. Va sur Kick. Tu peux aller sur Kick. Sur Kick, tu vas retrouver des gens un peu comme toi qui aiment dire n'importe quoi sur tout. Voilà. Donc on passera de sujet, puis on rendra hommage à cette dame aussi. Voilà. Et puis, ça vous concerne plus que moi, sans doute. Une étude, alors on a déjà parlé du sujet, mais une étude qui vient confirmer ce constat. En France, un jeune sur quatre serait dépressif. Voilà, la phrase, elle est folle. Un jeune sur quatre en France serait dépressif. C'est une enquête, un sondage qui met en évidence pas quelque chose qui existe depuis longtemps, quelque chose qui se dégrade. Hein. Une dégradation de la santé mentale des 15-29 ans. Alors pourquoi ? Pourquoi ce chiffre est aussi important ? Comment expliquer ? Hein. Éventuellement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc moi, je pense qu'il faut qu'on parle de ça. Voilà. Et puis on finira avec quelque chose d'un peu plus léger, parce que dans l'actualité, parfois on essaye de trouver des trucs qui nous changent un peu les idées. L'amateur de jeux vidéo que je suis devenu ces dernières années ne pouvait pas rater cette sortie cinéma, on est mercredi, d'un film qui s'appelle Exit 8, qui est aussi un jeu vidéo. Peut-être un jeu vidéo indé, non ? Ce jeu vidéo, tu sais, dans les couloirs d'un métro, là, où avec une boucle que certains connaissent, je vois que certains connaissent, hein, où t'es dans une boucle, dans un couloir de métro. C'est un jeu. C'est génial parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui arrive à écrire c'est quoi ce navet? C'est-à-dire qu'on n'a pas expliqué de quoi parlait le film. On n'a pas eu l'article, mais il y a déjà quelqu'un qui a un avis. Alors c'est exactement ce qu'on essaie de faire ici, c'est d'expliquer aux gens que pour avoir un avis, il faut réfléchir, il faut se documenter. Mais il y a déjà quelqu'un qui n'a pas vu le film, qui n'a pas entendu l'explication, qui n'a pas eu l'article, mais il a déjà un avis sur le film. Moi, je veux dire bravo. Ça, c'est fascinant. Et donc, c'est un jeu vidéo qui est un peu mythique, voilà, qui est dans une atmosphère un peu étonnante. Je rappelle que le film sort aujourd'hui. Hein. Et donc, il y a une adaptation que l'humanité semble dire que le film est plutôt sympa, quoi. Mais certains parleront du jeu aussi, parce que je suis sûr que certains ont joué au jeu, et le jeu est assez incroyable. Moi, je n'ai pas joué à ce jeu. Voilà, les amis, pour l'essentiel de l'actu ce matin. Voilà, ça, c'est le sommaire. Maintenant, on va lire tout ça. On va développer tout ça. Et on va faire ce que certains ne font pas assez. On va prendre le temps. Tu devrais le faire au The Event. Alors oui, mais s'il fait très peur, parce que j'ai dans mes Donation Goals, j'ai un Donation Goal où je joue un jeu d'horreur. C'est un jeu à l'atmosphère très forte, mais je suis pas sûr que ce soit un jeu d'horreur. Je crois que ça fait pas assez peur. Donc maintenant, voilà, maintenant on va lire tout ça. Salut Nanina, merci pour ton message. Tu es quelqu'un qui a peur? Ah oui, moi je prends tout premier degré. Je ne crée aucune distance entre la fiction et la réalité. C'est pour ça que je ne joue jamais à des jeux d'horreur. C'est plus stress bizarre qu'horreur, voilà. Faire un podcast d'actualité, ça te dirait? Sim7, tu veux dire mettre cette revue de presse en podcast en duo? C'est un truc auquel je pense depuis longtemps. J'ai une réunion cet après-midi à ce propos pour que la matinée tienne, qui existe depuis 5 ans sur Twitch et maintenant sur TikTok, puisse aussi arriver sur les plateformes de podcast. Voilà, je vais voir ce que je peux faire. Merci Karigan pour ton message. Bah, je suis en train de travailler là-dessus, je vais faire le maximum. Salut Luancy, joli pseudo. Merci pour ton message. Bon, on va y aller alors. Ce serait top et je me demande comment on rendrait tes interactions avec le chat en audio. Je pense que les gens riraient beaucoup de la pertinence de 99% des messages et de la non-pertinence de 0,0001% des messages. Je pense que ça ferait beaucoup rire les gens. Je pense que ça pourrait même les détendre. C'est quoi ton meilleur conseil de vie? Écoute-toi, guapo. Écoute-toi, ne laisse pas aux autres de te dire comment tu dois mener ta vie. C'est toi qui dois inventer ton chemin, dans le respect des autres, évidemment. Mais écoute-toi, écoute cette musique que tu as en toi qui te dit que voilà, tu es sûrement, il y a sûrement un truc que tu fais bien, il y a sûrement un truc dans lequel tu as du plaisir, il y a sûrement quelque chose qui fait que tu vas te faire du bien toi et aux autres aussi. Je parle de boulot, hein. Voilà, et que c'est cette voie-là que tu dois suivre. Voilà. Et crois en toi, donne-toi les moyens de le faire après, évidemment, sinon ça marche pas. Mais ne laisse pas les gens te dire à quoi doit ressembler ta vie, quoi. Dans un cadre qui est celui du respect des autres, évidemment, quoi. Nietzsche disait ça? Ah, je savais pas, David. Nietzsche disait exactement cela, fais ce que tu es. Ok. Je ne savais pas que j'étais Nietzschéen. On y va? Et si on sait pas quoi faire de sa vie? Ah bah ça c'est un problème. Ça la légende. Joli pseudo. C'est compliqué, hein? C'est plus compliqué à dire. C'est plus simple à dire qu'à faire. Dire, écoutez-vous, trouvez votre voie, votre chemin, c'est facile à dire, mais c'est extrêmement compliqué à faire. Comment on trouve son chemin, sa voie? C'est une réflexion sur soi, c'est une introspection qui peut durer des années, qui doit commencer quasiment dès l'enfance. Dans une société où justement on ne vous dit pas ça, on ne vous dit pas, on ne porte pas ce message. de vous écouter, de vous chercher votre voix. On vous parle débouché, on vous parle emploi, et qui ne finit jamais, oui, c'est, hein. Et c'est un long travail, et c'est pas facile. Personnellement, je suis au boulot, je t'écoute uniquement en audio et certains commentaires me font vachement rire. Ben oui, c'est pour ça que je cite parfois les trollers ou les commentaires un peu zarbi, c'est pour faire créer un peu de sourire. Non, c'est quotidien, Gaëtan, on essaie de faire ça tous les jours. Alors pas demain et jusqu'à la fin de la semaine parce que je serai au The Event à Montpellier, mais l'idée cette année, c'est que ce rendez-vous qui était quasiment tous les jours devienne tous les jours, désormais, du lundi au vendredi, puisque j'ai un petit peu plus de temps maintenant. J'ai 26 ans et je suis encore en train de chercher ma voix, mais on peut chercher sa voix très longtemps. Hein. Bon, moi j'ai eu la chance de savoir très tôt ce que je voulais faire, mais c'est une chance, quoi. Allez, on y va. Allez, let's go. La politique. On y va. Qu'est-ce qui va se passer après Bayrou ? Bon, déjà, c'est supposé que Bayrou va sauter, hein, le gouvernement, mais bon, il n'y a pas trop de suspense dessus. Je sais pas quoi mettre, merci pour ton prime Boba Fett, joli pseudo, merci pour ton soutien, merci à tous, merci Tia Libel aussi. Non, ça c'est la revue de presse d'hier, ça. À chaque fois je reviens trop loin ici. Qu'est-ce qui va se passer après Bayrou quand le 8 septembre a priori il y a 99% de chances l'Assemblée va refuser de lui voter la confiance qu'il a demandé pour l'appuyer dans sa démarche d'austérité budgétaire pour réduire le déficit avec les recettes qu'il a proposées. Tout ça, on en a déjà parlé. On en reparlera, mais c'est pas la question que pose l'opinion. L'opinion se demande si le président Macron ne va pas tenter de nommer à Matignon un Premier ministre ou une Première ministre du Rassemblement National. Voilà. Qu'est-ce qui se passe le 8, Cassé-Boja ? En fait, le 8, il y a un vote à l'Assemblée demandé par Bayrou de vote de confiance du gouvernement, sachant que, en gros, si, c'est ce que dit la Constitution, Bayrou n'obtient pas une majorité à ce vote de confiance, il est obligé de démissionner. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe après ? Le RN à Matignon, la tentation du pourquoi pas. Que nous dit le journal L'Opinion à ce propos ce matin ? Le 2 septembre, François Bayrou, donc ça c'était hier, a poursuivi ses rencontres avec les partis politiques pour essayer de les convaincre de voter la confiance, a priori ça marche pas. Dans une interview au Figaro de ce matin, mais que je vous ai pas mis de côté, Nicolas Sarkozy se dit favorable à une dissolution. Le 8 septembre, le Premier ministre sollicite donc la confiance des députés. Il y a un an, écrit Corinne Laïc, la stabilité politique avait un prix, il fallait un budget, même médiocre. Aujourd'hui elle a un nom, cette stabilité, celui de Jordan Bardella. Qui le constate, le souhaite ou le redoute, le visage du président du RN s'inscrit dans les têtes comme une fatalité plus ou moins souriante. Et s'il était, question de l'opinion, Jordan Bardella, le seul à pouvoir gouverner le bateau ivre que la France est devenue. Dans une interview au Figaro, le 2 septembre, le 2, parce qu'elle est publiée aujourd'hui, hein, moi je l'ai vu ce matin dans le Figaro, Nicolas Sarkozy, l'ancien président, c'est pas lui qui a été condamné, d'ailleurs. Apporte de l'eau à ce moulin. L'ancien président, c'est pas lui qui a été condamné, estime que la dissolution est la seule solution pour sortir de l'impasse actuelle. S'il n'y a pas de front républicain, qui n'a jamais été condamné, dit Yveline. T'as été condamné, Yveline ? Parle-nous-en. Moi, j'ai jamais été condamné, moi. Yveline, je sens que tu as envie de nous parler de ton casier judiciaire. N'hésite pas, on est toujours preneur de content. S'il n'y a pas de front républicain comme je le pense, les conditions peuvent être réunies pour dégager une majorité au moins relative, explique-t-il. Ce qui serait mieux que la situation actuelle. Le Figaro lui a demandé une majorité RN. Ah non, le Japon, ça compte pas. Non, ce qui s'est passé au Japon reste au Japon. Voilà. Et que répond Sarkozy ? Le RN est un parti qui a le droit de se présenter aux élections. Il peut donc aussi gagner si c'est le choix des Français. Donc, Sarko, lui, se pose dans la perspective d'une dissolution de l'Assemblée, de nouvelles élections législatives, d'un nouveau succès du RN, ce que disent les sondages d'ailleurs. Et donc, Sarko dit, bah, dans ce cas-là, pourquoi pas le RN au gouvernement, quoi. À mes yeux, dit l'ancien président, ils appartiennent, donc le RN, à l'arc républicain. Nicolas Sarkozy a ouvert la fenêtre d'Overton. Comment on définit précisément la fenêtre d'Overton? Le chat, vous êtes incroyable, vous allez me définir ça proprement en deux secondes, je sais, je n'ai même pas besoin d'aller chercher sur Internet. Comment on qualifie Claire... Les sujets acceptables, me dit, Rutser. Voilà, c'est le, comme le dit Andby, voilà, c'est le cadre de ce qui est considéré comme acceptable. Comme le dit M. De Chill, c'est le cadre des idées politiquement considérées comme acceptables à notre époque. Ce qui est acceptable de dire. Cette fenêtre, me dit Tom Thompson, c'est tout ce qui est admis de dire à un moment, un instant T, à un moment donné, dans une société. Admis de dire sans choquer. Ok, donc revenons à notre sujet. Qui décide de ça? Ah bon, c'est très subjectif, hein. C'est très subjectif. Donc Sarkozy a ouvert la fenêtre de Overton, donc voilà. Au risque de... Ah, Defecator nous dit qu'il a fait une vidéo de quelques minutes dessus. Defecator, qui fait un excellent travail sur YouTube et sur Twitch, sur l'information, sur le debunk des fake news. Et si vous allez voir la chaîne YouTube de Defecator officiel, vous trouverez cette vidéo sur la fenêtre d'Overton. Donc, Sarkozy ouvre cette fenêtre au risque de se prendre un courant d'air, si je puis me permettre, de dire que, mais pourquoi pas, le RN, en fait, au gouvernement, quoi. Elle commençait à s'entrebâiller, explique l'opinion, rendant acceptable ce qui était encore inimaginable il y a quelques mois, que le parti de l'extrême droite, anti-européen, populiste, devient tout à coup une solution à l'impasse politique permettant d'éviter une crise de régime. Parce qu'il serait le seul à même de gouverner, selon les canons, les règles de la Ve République, hein, unité politique entre l'Élysée, Matignon et l'Assemblée. Je vois pas bien l'unité politique entre Macron et le RN, mais bon. Voilà, supposer que le président Macron nomme un Premier ministre du RN. Intéressant cet article, c'est la première fois que je vois un article qui parle de ce sujet. Comme ça aussi, clairement, quoi. D'abord, il y a le constat des experts. Des législatives anticipées pourraient reproduire la tripartition actuelle, probablement déformée au détriment du bloc central. Le bloc central macroniste serait sans doute encore plus affaibli. Ou bien déboucher sur une cohabitation avec le RN, avec des réactions sociales fortes, mais ce n'est pas politiquement inconcevable, dit encore Denis de Béchillon, qui est un professeur de droit public constitutionnaliste à Pau. Donc ce professeur de droit, il dit « oui, c'est vrai que c'est... ça provoquerait des réactions, le RN à Matignon, mais ça n'est pas politiquement inconcevable, dit-il. Même si le RN ne dispose que d'une majorité relative, puisqu'aujourd'hui vous savez qu'aucun parti n'est en capacité d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée, je ne vois pas comment les LR, la droite, pourraient ne pas jouer la raison d'État et empêcher mécaniquement le RN de gouverner. » Merci Defecator. J'épingle le message de Defecator qui a fait une vidéo sur la fenêtre d'Overton que vous pouvez consulter, c'est en haut du chat, sur Twitch. Je ne crois pas qu'on puisse épingler des messages sur TikTok. Ce qui est dommage d'ailleurs, c'est bien. D'autant qu'ils sont d'accord sur beaucoup de points, dit ce professeur, entre la droite et le RN. Le RN lui-même, qu'en pense le RN? Qu'en pense le RN? Est-ce que le RN a envie d'aller à Matignon, là maintenant? Est-ce que le RN ne veut pas attendre 2027 pour essayer de conquérir la présidence? Que dit le RN? Le RN lui-même se dit désormais prêt à prendre Matignon, même sans majorité absolue, hein, mais en cherchant des alliés plutôt à droite. Plutôt à droite. Merci, merci tête de cul pour ton soutien. Bon, les pseudos, c'est un peu mon kiff. Alors, un autre constitutionnaliste, Benjamin Morel, est pas d'accord. C'est intéressant. Deux prochaines législatives, donc dans l'hypothèse d'une dissolution du président Macron avant 2027, hein, vous l'avez compris, se déroulerait dans une situation différente de celle de 2024. On assisterait à un important affaiblissement du bloc central, donc ça on est tous d'accord, et donc des affrontements gauche-RN au second tour. Hugo pose la question dans le chat, tu es du RN. Est-ce que Samuel Etienne est du RN? Alors, parler d'une chose ne veut pas dire que tu... que tu fais de cette chose ta pensée. Quand je parle des socialistes, je ne suis pas socialiste. Quand je parle de LR, je ne suis pas LR. Quand je parle de LFI, je ne suis pas LFI. Quand je parle du RN, je ne suis pas RN. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus subtil, tu vois. Ça, c'est ce qu'on peut appeler, c'est ce qu'on peut appeler le journalisme. D'ailleurs, on parlera de LFI aussi ce matin. Je suis plutôt samueliste, moi. Slash 2027. Donc Benjamin Morel n'est pas d'accord. En cas de législative, on verra au second tour, aux élections, des affrontements gauche-RN, avec des perspectives de victoire du parti de Jordan Bardella. À tort ou à raison, on regarde du côté de l'Italie. Parce qu'on a, vous avez vu arriver Giorgia Meloni, qui est une ancienne membre des jeunesses mussoliniennes en Italie, hein, qui a clairement un passé d'extrême droite. Et il y a une stabilité politique dans un pays dont le régime politique pourtant crée de l'instabilité, qui est l'Italie. Et donc, ce Benjamin Morel dit, à tort ou à raison, regarde du côté de l'Italie, stable depuis l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni. Lors de nouvelles, donc certains se disent, ben, pourquoi pas en France du coup ? Lors de nouvelles élections, le critère d'arbitrage pourrait ne plus être pour ou contre le RN, mais pour ou contre l'instabilité. Donc ce que dit Benjamin Morel, c'est intéressant, il dit qu'il y a des Français qui, en cas de dissolution, pourraient tenter de voter Rassemblement National avec l'argument de « Ah ouais, mais finalement, c'est avec eux qu'on a le plus de chances d'avoir de la stabilité politique. » Paradoxe quand on sait que le parti fondé par Jean-Marie Le Pen a été le repoussoir des législatives anticipées de l'an dernier. Hein, le Front Républicain a soudé tous ceux qui voulaient empêcher cette victoire annoncée du RN. Mais ce Front Républicain, hein, s'est affaibli, hein, au fil des années. Rappelez-vous du score de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. On était combien ? On était à 80%, non ? Je ne sais plus. Hein. Ce Front Républicain, il s'est affaibli. Ce Front a pris des rides, dit l'opinion. Ce que les experts analysent, une partie des Français le souhaitent. 82%. Voilà, 82%. Une partie des Français le souhaitent. Selon un sondage, Odoxa, pour le Figaro, fin août, 41% des personnes interrogées, je ne dis pas 41% des Français, parce qu'un sondage, c'est un outil forcément un peu imparfait. 41% des personnes interrogées préfèrent donner les clés de Matignon à une personnalité du RN plutôt qu'à un Premier ministre issu de la gauche modérée hors NFP, 36%, ou de la droite, 33%. Et des voix politiques, il y a un sondage dans le chat. Et un sondage, Samuel est-il de droite, 7%, c'est pas beaucoup. Hein. De gauche, 10%, c'est pas beaucoup. Hein. Très beau, 16%. Magnifique, 67%. Voilà. Ce sondage est évidemment complètement truqué. Merci beaucoup d'avoir voté. Des voix publiques font entendre le même son. Dans C'est dans l'air, le 27 août, Thierry Breton, qui est un ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie aussi, non, affirme, soit le président essaie d'appeler des hommes ou des femmes qui peuvent créer des coalitions, ça n'a pas marché. Maintenant, il ne reste plus qu'à appeler le parti prépondérant, le RN. Mais d'où Thierry Breton, qui n'est pas du tout RN, dit ça ? Pourquoi Breton dit ça ? Ou alors il appelle maintenant, ou il fait une dissolution, on verra où ça mènera. À diverses reprises, l'ancien commissaire insiste sur cette nécessaire nomination et la logique qu'il y a appelé le président du premier parti à l'Assemblée. Tenry dit, et c'est peut-être pas faux, il veut peut-être que le RN se casse la gueule dans l'exercice du pouvoir avant 2027. Qu'en pense le patron du MEDEF, le syndicat patronal ? Pour Patrick Martin, l'arrivée du RN au pouvoir ne serait pas une catastrophe économique. Pourtant, les milieux... il y a quelques années, c'est pas ce que disaient les milieux patronaux. Comme le dit Elisa, la fenêtre d'Overton s'est sérieusement élargie. C'est ce qu'on est en train de constater avec cet article. Hein. Merci Elisa pour ton soutien. Pour Patrick Martin, le président du MEDEF, certains sont plus conscients des périls et surtout de ce qui se passe dans le reste du monde que d'autres. Certains n'ont absolument pas fait référence aux... Qu'est-ce qu'il raconte, là ? Attends, c'est quoi cette phrase de 200 pages, là ? Ok, bon, c'est long, mais sa réflexion à propos des chefs de parti invités à débattre avec le MEDEF, c'est que certains sont plus conscients que d'autres des problèmes, et dans ceux qui sont manifestement plus conscients, il y a Gabriel Attal, bon, c'est le MEDEF qui donne un petit peu son tiercé, Bruno Retailleau, et dans une certaine mesure, a-t-il dit, Jordan Bardella. Le patronat français, bon, les grands patrons, parce que le MEDEF, c'est les grandes entreprises. Le patronat français n'a plus peur d'un RN gauchisant aux accidents ou aux accents antilibéraux. Manuel Valls, maintenant, entend cette musique qu'on est en train d'entendre ce matin aussi. Manuel Valls entend cette musique, mais ne l'apprécie pas du tout. À Autun, lors de l'université d'été du club de réflexion du think tank de Jean-Michel Blanquer, il dit, Valls, ne pas croire au retour du débat droite-gauche. Cela veut dire qu'il faudra penser des coalitions politiques et d'idées. Voilà. Et de poursuivre, il faut le faire parce que je pense que sur les questions internationales, le rapport à la Russie, sur l'idée de l'Europe, sur l'idée de la République, y compris sur les questions économiques et sociales, je ne veux pas de l'extrême droite. Je me bats contre cette idée qui est, et qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Allez, il faut peut-être les essayer, le RN, hein. C'est leur tour et ça nous permettra peut-être de revenir au pouvoir. C'est ce que disent certains à droite et à gauche, quoi. Connerie, dit Valls, ça ne marche pas comme ça. Les sentiments n'empêchent pas la raison. À Autun, Édouard Philippe, à qui bientôt je vais ressembler de plus en plus, Philippe le reconnaît, ce sont eux les favoris, parlons du RN, l'espoir d'une coalition entretenue par le camp des modérés réunis par l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, a sonné comme un chant désespéré. Qu'est-ce qu'on constate dans cet article? C'est qu'effectivement, cette hypothèse totalement jugée comme totalement farfelue et ou à éviter il y a quelques mois, quelques années, d'un président Macron qui nommerait un premier ministre RN a pris de la consistance. Moi, je n'arrive pas personnellement à imaginer le président Macron nommer dans quelques jours un premier ministre RN. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On constate que le Figaro pousse bien bien à droite. C'est peut-être possible, mais là, c'est le journal L'Opinion. C'est un autre journal. J'ai du mal à l'imaginer. Je sais pas ce que vous en pensez. Macron est capable de tout, me dit Fuzouz. Si le RN est majoritaire, il n'aura pas le choix. En cas de nouvelles élections, me dit Sparmacien. Il va remettre un faux ministre de gauche, me dit Baloups. Ça commence à me faire peur cette histoire, me dit Screech Zermi. Ça va dépendre du 10 septembre. Ah oui, la journée de blocage, oui. Bonjour, on voit surtout une manipulation de l'opinion très flagrante. Pas besoin de manipulation, hein, il suffit de voir les scores électoraux du RN qui progressent élection après élection. Hein. C'est pas une espèce. Salut, juste moi Théo. Voilà. Donc, voilà pour cette hypothèse. Il y a une autre hypothèse que quelqu'un vient d'évoquer dans le chat. Après le départ de Bayrou, Macron pourrait aussi nommer une personnalité de gauche. Voilà. Et c'est la piste, l'hypothèse que semble privilégier notamment les socialistes. Salut Dumas, on nous fait un petit concours de. On nous fait un petit bonjour de Tahiti, la classe. Alors, le RN n'exclut pas l'idée de gouverner dès maintenant. Et les socialistes disent, ben non, c'est pas votre tour, c'est notre tour. Comment le Parti socialiste compte trouver une majorité pour gouverner, un article cette fois dans La Croix. Se projetant dans l'après-gouvernement de Bayrou, le PS a d'ores et déjà fait son offre de service pour Matignon. Les socialistes misent sur la non-censure de la France insoumise, qui resterait en dehors du gouvernement. Voilà. Mais qui ne censurerait pas ce gouvernement, non censure également d'une partie du centre et de la droite. Nous sommes prêts à nous mettre au boulot. Ça, c'est ce que dit Olivier Faure, c'est le premier secrétaire du PS depuis quelques années déjà, depuis le campus de rentrée du PS. Autrement dit, le PS est disponible pour Matignon après le probable vote de confiance contre Bayrou lundi prochain. Lundi prochain. Lundi prochain. Oh putain, lundi prochain. Non, c'est-à-dire lundi prochain, je peux pas faire. Ah ouais. C'est mardi, mais on en parlera beaucoup mardi, après le vote. Parce que je serai de retour de Montpellier. Mais quelle que soit l'origine politique du Premier ministre, l'arithmétique parlementaire est têtue. Aucun bloc électoral ne dispose de la majorité absolue des sièges. Vous savez que dans l'histoire de la 5e, c'est un système constitutionnel qui a été pensé pour marcher idéalement avec une majorité à l'Assemblée, pour soutenir l'exécutif, le gouvernement, idéalement une majorité absolue. Depuis quelques années, le paysage politique français s'est morcelé entre plusieurs blocs, extrême droite, gauche social-démocrate, gauche dite un peu plus radicale, ceux qui restent de la droite, les LR, l'ancien RPR, le camp macroniste, voilà. Il n'y a plus de parti en capacité d'avoir la main, quoi. Aucun bloc électoral ne dispose de la majorité absolue des sièges, qui est située à 288, merci à ceux qui m'appellent le GOAT des VCT, ni la gauche, ni le centre, ni la droite, ni l'extrême droite, sans compter qu'il y a une trentaine de députés indépendants entre le centre droit et le centre gauche. Défecateur nous pose la question, est-ce que c'est pas aussi un piège d'aller gouverner avec une assemblée aussi divisée, de rien pouvoir faire, ne serait-ce pas se griller pour les élections 2027? Le problème, c'est que s'il y a de nouvelles élections législatives, a priori, d'après les sondages, ces élections vont donner le même résultat, une assemblée divisée, avec peut-être même un peu moins de députés macronistes, et puis un peu plus de députés RN et ou LFI, quoi. Donc ça ne résoudrait pas l'éclatement de l'assemblée. Merci Oumaslan, merci Sissim4, merci Anzo Panza, merci Sabos. La question n'est pas de savoir qui soutient, puisque personne n'atteint la barre fatidique, mais qui ne censure pas, dit le porte-parole des socialistes. Alors ça, il faut bien le comprendre, cette phrase, elle a l'air anodine, mais elle est très importante. Dans un système politique, un paysage politique éclaté avec plein de partis en position de force à l'Assemblée, la question n'est pas de savoir qui va soutenir un gouvernement, puisque personne ne peut soutenir tout seul, mais qui ne censure pas, qui ne bloque pas. Selon Arthur Delaporte, qui est donc un socialiste, ce socle gouvernemental engloberait toute la gauche, à la fois prête à défendre une alternative et trouver des compromis, les socialistes, les écologistes, les communistes, une partie du groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire, l'IOT, est non inscrit. Voilà. Ça, ce serait les soutiens. Hein, 150 députés. Vous avez vu que les socialistes ne parlent pas de LFI, puisqu'ils ne comptent pas LFI dans ce soutien, mais ils espèrent que LFI ne va pas voter contre, ne va pas censurer, ne va pas voter une motion de censure. Voilà. Reste à savoir ce que feront les très nombreux autres. Entre, vous l'avez compris, la censure et la non-censure. Cet article est assez clair. Côté censeur, les socialistes comptent sans surprise l'extrême droite. Bon, le RN a envie d'arriver au pouvoir, donc évidemment le RN ne va pas laisser tranquille les socialistes au pouvoir. Côté non-censeur, il faut la non-censure de la France insoumise. Voilà. Et aussi d'une partie du bloc central. Voilà. C'est intéressant, hein ? Comme on a une nouvelle donne politique, comme on ne peut plus compter sur la stabilité et avec une majorité comme avant, il faut inventer des nouvelles règles. Et maintenant, on ne cherche pas, on ne cherche pas seulement les soutiens, on calcule aussi ceux qui vont s'abstenir de s'opposer. Reste que, écrit le journal La Croix, cet idéal socialiste risque de se prendre les pieds dans le tapis. Après, je vous lis. Au centre, si on reconnaît volontiers la nécessité de compromis et le dialogue avec le PS, on réfute d'emblée l'issue d'un gouvernement issu de la gauche. On va lire avec un autre papier dans la foulée. Macron, il voit plutôt effectivement d'un bon œil l'idée de gouverner avec la gauche. Mais pas forcément en allant jusqu'à un gouvernement issu de la gauche. Je vous explique ça dans un instant. Je ne vois pas comment Macron nommerait des personnalités qui détricoteraient son bilan, notamment économique, notamment fiscal, en fait, c'est ça. Dit Sylvain Maillard, qui est un député Renaissance. D'autres scénarios existent. comme un accord de non-censure englobant le PS. C'est-à-dire qu'en gros, d'après ce que je comprends, Macron renommerait un ministre de macroniste ou de centre-droit ou de droite, voilà, avec un accord de gouvernement de non-censure avec les socialistes. Est-ce que les socialistes se contenteraient de ça? Je ne le sais pas. Voilà. Et justement, on va se pencher maintenant sur ce que pourrait faire Macron. Je vous lis, hein. Mazer nous dit, et ça ferait quoi de passer à une 6e République? Vous savez que certains parlent parfois de la 6e République. Je ne connais rien à la politique, mais on a parlé de 5e tout à l'heure. La Constitution, c'est une règle du jeu. La Constitution, c'est une règle du jeu. Donc certains disent, en changeant la règle du jeu, en changeant le mode de scrutin, en changeant la manière dont notre démocratie fonctionne, notre République fonctionne, on va résoudre tous les problèmes dont on parle. Hein. Moi, je n'y crois pas. Alors, je peux totalement me tromper. Voilà, le règlement intérieur, comme dit Jean Massier, l'excellent Jean Massier. Moi, je n'y crois pas. Le problème, c'est ce qui se passe aujourd'hui entre l'offre politique et la demande. Vous avez un problème d'offre et de demande. Les Français ne se retrouvent pas majoritairement dans une offre politique, dans un parti. Les Français aujourd'hui, plus qu'auparavant, se retrouvent dans des offres politiques qui sont multiples et qui sont incompatibles parfois entre elles. Donc, on n'a pas de majorité à l'Assemblée, on a des partis qui n'arrivent pas à s'entendre parce que ça n'est pas notre culture politique, contrairement au régime parlementaire où il n'y a jamais de majorité, donc on a l'habitude d'essayer de trouver ce qu'on appelle des coalitions, de discuter et de gouverner ensemble. En France, on n'a pas du tout cette habitude-là, parce que notre histoire politique n'est pas celle-ci. Demain, si vous changez la règle du jeu, vous n'avez pas la règle du, le changer la règle du jeu ne va pas changer le vote des Français. Ne va pas changer le fait que les Français se retrouvent aujourd'hui dans des partis politiques très différents. C'est plus gauche-droite, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Et même ça m'embêterait qu'on veuille que la règle finalement produise un vote. Voilà. Donc je n'y crois pas, mais je peux me tromper. Et puis quand on dit 6e République, qu'est-ce que ça veut rien dire? Quelle 6e République? C'est évidemment ce qu'on met dedans. Ça veut dire au mode de scrutin. Alors aujourd'hui, on a un scrutin majoritaire en France. Est-ce qu'il faut aller vers davantage de proportionnel? Mais la proportionnelle, elle émietterait encore plus la représentation nationale. Donc, dans un premier temps, elle aggraverait encore le problème. Donc, ça, c'est le mode de scrutin, c'est le fonctionnement aussi des assemblées. Est-ce qu'on passe à un parlement monocaméral avec une seule chambre? Est-ce qu'on supprime le Sénat? Voilà. Est-ce qu'on fait plus appel au référendum? Pour moi, c'est une bonne idée. Voilà. Ça veut rien dire sixième. Qu'est-ce qu'on met dans la sixième? Mais c'est un débat qu'il faudra avoir. Parce que peut-être que dans 6 mois, je vous dirai, écoutez, j'ai réfléchi au sujet et que si, il y a un changement de règle du jeu qui s'impose et qui pourrait être sympa. Alors, qu'est-ce que veut faire Macron? Qu'est-ce que pourrait faire Macron? Macron prépare déjà l'après Bayrou. Le chef de l'État a réuni mardi à l'Élysée, donc hier, les chefs du socle commun pour évoquer l'après Bayrou, avant la chute programmée, il n'y a pas trop de suspense, de son gouvernement lundi prochain. Emmanuel Macron, écrivent les Échos, donc troisième journal qu'on lit ce matin, après l'Opinion et la Croix, dans l'après Bayrou, 6 jours avant le couperet du vote de confiance du 8 septembre, qui se traduira par la chute du Premier ministre, il n'y a plus trop de suspense. Le chef de l'État a reçu hier à déjeuner les chefs de 4 principaux partis du bloc central, Gabriel Attal, François Bayrou, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, but l'opération préparée l'après 8 septembre quand Bayrou n'aura pas réussi à décrocher la confiance à l'Assemblée. Oh, j'aimerais tellement une petite souris. Ce serait incroyable. Vous imaginez? C'est un déj là? T'as Macron, Gabriel Attal, Bayrou, Édouard Philippe, Retailleau, le déj, et les mecs qui disent: bon les gars, c'est plié pour Bayrou, qu'est-ce qu'on fait? Comment on... Hein? Vous imaginez, mais qu'est-ce qu'ils se disent, ces gens-là? Bardella, non, Bardella, il n'est pas dans le bloc central. Plume, Deschamps, il faut écouter. Là, je te parle du déj, là, Bardella, t'es pas invité. Hein? Ce serait incroyable, hein? Qu'est-ce qu'ils se racontent? Qu'est-ce qu'ils se disent? Tu vois, est-ce qu'ils se parlent cash? Est-ce qu'ils se disent, tu vois, est-ce qu'à un moment, Macron dit, bon, les gars, le RN, ça va pas être possible. Les socialistes, j'en veux pas non plus, qu'est-ce qu'on fait? Ce serait incroyable. Une petite souris, les gars. Ou on se la fait à Pierre Feuille-Ciseau, ouais? Il vient de le dire sur BFM. Quoi? Qui faisait partie du bloc central? Bardella? Je crois qu'on n'arrive pas à se comprendre, Plume Deschamps, là. Là. Je te parle d'un déjeuner qui a réuni les parties du bloc central. Tu me dis Bardella aussi. Si tu réponds à un commentaire d'il y a un quart d'heure, je ne vais pas comprendre ce que tu racontes. Continuons. L'exécutif ne se fait plus d'illusions. Reçu mardi matin, les dirigeants du RN ont confirmé leur intention donc de voter contre la confiance, appelant de plus en plus fort à une nouvelle dissolution de l'Assemblée. Le RN veut que les Français retournent voter aux législatives. À gauche non plus, aucun miracle attendu à Matignon. Deux LFI à place publique, hein, qui est le mouvement de Raphaël Glucksmann. Tous les députés à la gauche de l'hémicycle voteront contre la confiance. Bon, c'est quasiment sûr, Bayrou va sauter. Le socle commun, qui compte 210 députés, ne tient qu'à un fil. Le but du déjeuner à l'Élysée était déjà de s'assurer de la mobilisation des troupes lors du vote lundi prochain. Surtout, Emmanuel Macron a... Alors, le journal Les Échos croit savoir ce qui s'est dit à ce déjeuner, donc on n'était pas une petite souris, mais Les Échos pensent le savoir, ça a entendu parler un petit peu. Emmanuel Macron a enjoint lors de ce déjeuner les uns et les autres de se tourner vers le PS et le groupe Liot pour trouver les voies de la stabilité du pays. Qu'est-ce que ça veut dire? L'affaire s'annonce complexe après deux échecs successifs, échec de Michel Barnier, échec de François Bayrou. Le prix d'une non-censure du PS a augmenté depuis janvier. Le PS a considérablement durci le ton contre l'exécutif depuis l'échec du conclave sur les retraites et la présentation du plan de redressement des finances de Bayrou. Voilà. Donc le prix à payer par Macron pour un soutien du PS au prochain gouvernement a augmenté. Comprenez, il demande sinon des ministres de gauche, en tout cas des réformes de gauche. Donc, quant à négocier un accord de non-censure, cela passera par des vraies victoires politiques pour le PS. Olivier Faure estime même que c'est à son tour, enfin, en tout cas au tour du PS, d'aller à Matignon. Macron, lui, souhaite toujours nommer un Premier ministre issu du socle commun. Comprenez, centre, centre-droit, droite. Emmanuel Macron n'a pas beaucoup de choix. S'il veut un gouvernement qui dure plus que les 3 mois de Barnier ou les 9 mois de Bayrou, il ne peut, estime Les Échos, que se tourner vers le PS. Mais on est dans Les Échos. L'idée donne déjà des sueurs froides aux dirigeants de LR, donc la droite. Voilà. L'idée d'une coalition avec le PS ne passe pas. Vous imaginez une coalition PS-LR ? Non, on ne peut pas avoir d'accord de gouvernement avec le PS. Le PS qui veut abroger la réforme des retraites, ils veulent revenir à 62 ans. Hein. Le PS qui veut taxer plus et dépenser plus, hein, notamment la taxe... dont on parlera tout à l'heure. Merci de m'aider. Zucman, merci, heureusement que vous êtes là. Ce n'est pas le PS qui peut entrer dans une coalition avec nous. On a besoin de clarté. Merci pour les Zucman, vous êtes incroyable. Mais, c'est ce que dit un conseiller, si le prochain gouvernement tombe, donc celui que va former Macron après Bayrou, il faudra se rendre à l'évidence, le prochain Premier ministre sera la dernière cartouche avant la dissolution. Édouard Philippe, Gérard Larcher, Nicolas Sarkozy, on l'a dit tout à l'heure, estiment cette dissolution inévitable. Moi, ça ne m'arrange pas, parce que je ne suis pas prêt pour les législatives. Bon, je vous le dis, ça ne m'arrange pas du tout. Ici, on a construit notre calendrier politique pour 2027. Donc ça ne m'arrangerait pas. Merci Bronca66 pour le Prime. Merci Vanessa P. Artiste. Merci Bab. Du côté des partisans de la dissolution, le RN, LFI, hein, deux partis qui pourraient tirer leur épingle du jeu et avoir encore plus de députés, encore plus d'élus, quoi. Génial. Quel spectacle! Allez, je vous lis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer après le 8 septembre? On est dans la merde. Oh oui, disons que c'est moins lisible que ça, qu'à une époque. On est dans une recomposition de la vie politique française. C'est pas inintéressant. Après, ça pose des problèmes parce que du coup, les gouvernements ne restent pas très très longtemps. Là, la France n'est pas sûre d'avoir un budget. Je vous rappelle que le budget, c'est quand même les dépenses et les recettes. C'est bien pour un pays d'avoir un budget. Donc, comme le dit Hassan dans le chat, oui, on a un problème d'instabilité, c'est vrai. Même avec l'affaire de Marine Le Pen, les gens vont voter RN, me demandent les ch'tis quoi. Tu parles de l'inéligibilité de Marine Le Pen? Bon, après, je suis pas sûr que ça dissuade les électeurs du RN. Puis par ailleurs, y a pas que si Marine Le Pen est empêchée d'être élue à un mandat législatif ou présidentiel, il y a la solution B, comme Bardella. Il faut que Macron démissionne, vous êtes plusieurs à le dire, comme dit Nono, il a été désavoué dans les urnes, sauf que le président Macron, il a dit à plusieurs reprises qu'il irait au terme de son mandat. Un 8 septembre pour occulter le mouvement du 10. Je suis pas sûr si, hein. Si le mouvement du 10, le 10 septembre, c'est l'appel à bloquer le pays pour protester justement contre la politique qui est menée actuellement. S'il rencontre un succès, notamment dans la rue, on va en parler, hein. C'est pas parce qu'il y aurait eu la démission de Bayrou 2 jours avant, quoi. Ah, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est un peu pour couper l'herbe sous le pied, parce que comme il n'y a pas de gouvernement, pourquoi aller manifester et bloquer le pays alors qu'il n'y a plus de gouvernement? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais oui, si, c'est un aspect intéressant. Pardon, excuse-moi. Mais le 10, il est pas. La journée du 10, elle n'est pas tournée que contre Bayrou, elle est tournée contre le président Macron aussi. Oui, tu as raison. Paradin dit Marine Le Pen est inéligible, donc a un mandat, mais peut-elle être quand même nommée première ministre, puisque c'est une nomination? Oui. Marine Le Pen inéligible en raison de sa condamnation par la justice dans l'affaire des. Comment s'appelle ça? Des assistants au Parlement européen, là, notamment, et du détournement d'argent public européen. Marine Le Pen peut tout à fait être nommée à Matignon. Ça n'est pas un mandat, c'est un poste. Donc, aucun problème, ouais. Même si j'imagine mal le président Macron nommer Marine Le Pen à Matignon. Salut Arnaud, merci pour ton message. Macron doit choisir avec qui il gouverne, la gauche ou l'extrême droite. Exactement, Flouf. Même s'il va essayer sans doute une autre voie. Et les amendements, d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'il y a plus de chances que ce soit la gauche ou l'extrême droite? Alors, mon call, mais je peux. Les pronostics en politique, c'est très dangereux parce que c'est très compliqué à faire. Mais mon call, c'est que je n'imagine pas le président Macron appeler un socialiste à Matignon. Je n'imagine pas le président Macron appeler une personnalité d'extrême droite à Matignon. Là, maintenant, après le 8. J'imagine le président Macron nommer une personnalité de centre. Ou de centre droit ou de droite, compatible avec la gauche, surtout les socialistes, avec un accord de non-agression et des promesses faites aux socialistes. Je pense que c'est ce qu'il va essayer de faire. Voilà. Une personnalité compatible. C'est plus dans sa logique, c'est plus dans son logiciel. Est-ce qu'il va réussir à faire ça? Combien de temps ça tiendrait? En revanche, ce que dit l'article, c'est que s'il rate ça, il pourra pas le faire indéfiniment, quoi. Et le prochain coup, c'est ministre de gauche ou d'extrême droite, quoi. C'est ce que disait l'article. Ça va leur faire drôle quand tu vas te présenter après le Ziyamot, les cartes vont être rebattues. La rigolade, la rigolade. Donnez aux assos, hein, au Ziyamot. Bon. On va parler de fiscalité. On va parler de la taxe Zuckman, notamment. Maintenant. Mes parents sont dégoûtés qu'il n'y a plus question pour un champion. Embrasse-les, tes parents, le A. Dis-leur que je fais tout pour que ça revienne un jour en quotidienne. Merci, merci Fauftouille pour le 46e mois. Merci à toi. Merci Dobby. Merci Baptiste. Alors, c'est quoi la taxe Zuckman ? Écorcheur, on va en parler. Dans le débat politique actuellement, il y a cette proposition qui vient de la gauche, d'un monsieur Zuckman, et puis reprise cette proposition par la gauche, par les écologistes, les socialistes et LFI, qui est de taxer le patrimoine des très 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 riches Français, les gens qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, de taxer ce patrimoine à hauteur de 2% par an. C'est un défécatoire. Donc du coup, il y a un débat, ce que provoquerait une hausse de la taxation du patrimoine, via la taxe Zuckman ou par un retour de l'ISF, ancienne formule. Salut Maxime. Merci pour ton message. Voilà, ça concerne très peu de gens. 1800 foyers, moi je crois que c'est peut-être encore moins. Je crois qu'on va voir. On va lire l'article. Et donc le débat, des gens qui sont opposés à cette taxe Zuckman ou à cette imposition des ultra-riches, hein, c'est pas les riches, c'est pas les très riches, c'est les ultra-riches, c'est, ben, vous êtes stupides, ça va faire partir ces gens, c'est un fusil à un coup, vous allez les taxer une fois, puis après ils vont partir à l'étranger et vous allez vous retrouver... avec finalement une mesure contre-productive qui va faire perdre de l'argent et de l'activité à la France. Quoi. C'est ce que disent les opposants à ça. Et le problème, c'est que les économistes qui ont bossé sur le sujet disent, ben en fait, non. Quand on regarde ce qui s'est passé dans le passé, on ne peut pas dire que ça va faire fuir ces ultra-riches. Mais il y a un autre souci dans cette mesure dont parle également cet article. Et on va lire ce papier pour essayer de comprendre tout ça. Merci Fauftouille. Merci Romain. Ce que provoquerait une hausse de la taxation du patrimoine, en cas de hausse des impôts sur le patrimoine, l'expatriation des plus fortunés resterait faible. L'expatriation des plus fortunés resterait faible. Bonne journée Nina. Aurait un effet modeste sur l'économie. Voilà. Conclut, qui dit ça ? Il faut toujours se demander, mais... qui nous parle, d'où vient l'info, une étude du Conseil d'analyse économique. La question a enflammé le débat fiscal ces derniers mois. Est-ce qu'augmenter les impôts sur les plus hauts patrimoines fait fuir ou non les contribuables fortunés à l'étranger ? On parle de 0,1% de la population ? Oui, on parle à peu près de ça. Dimanche, Bayrou a mentionné cette menace de l'exil fiscal pour expliquer son opposition à la mise en place d'une taxe Zuckman, c'est-à-dire l'impôt plancher de 2%. Tous les jours, Adrien, on parle de l'actualité. Sur le patrimoine des foyers détenant plus de 100 millions d'euros de patrimoine, une mesure défendue par la gauche. Bon, je pense que dans le chat, vous n'êtes pas très nombreux à être concernés. Alors, Bayrou est dit, qu'est-ce que vont faire les ménages concernés ? Ils vont partir. Ça, c'est la conviction de Bayrou. Il est opposant à cette taxe. Pourtant, selon une étude du Conseil d'analyse économique, qui est un organisme de recherche indépendant rattaché à Matignon, cette crainte est à relativiser. Une équipe de 6 économistes est penchée sur cette question en mobilisant des données administratives inédites et la conclusion de ces économistes, la voici, la fiscalité du capital joue en réalité assez peu sur les départs à l'étranger des plus fortunés et n'a qu'un effet limité sur l'économie nationale. Donc cet argument de la crainte du départ des très riches ne tiendrait pas selon cette étude. Merci le Fifou pour ton soutien. Pour parvenir à ces résultats, comment ont-ils travaillé ? Les chercheurs ont commencé par constater que les hauts patrimoines quittent relativement peu la France, quand on regarde les chiffres. Seulement 0,2% du top 1% français s'expatrie chaque année. C'est même deux fois moins que la moyenne de la population française. Les riches, les très riches, quittent moins la France chaque année que la moyenne des Français. Il reste même plus. C'est intéressant. La tentation du départ touche bien davantage les ménages qui perçoivent de gros salaires ou de généreuses retraites que ceux qui touchent des revenus du capital élevés. En revanche, comme l'impôt sur le revenu en France est difficile d'y échapper, de faire de l'optimisation fiscale sur l'IR, comme on dit, quand t'as un gros salaire ou quand t'es un gros retraité, là tu peux être tenté de partir à l'étranger parce que tu peux trouver assez facilement un pays qui va moins t'imposer. En revanche, pour les ultra-riches, l'argent, ils ne le tiennent pas de leur salaire. Hein, les 100 millions d'euros de patrimoine, là, ça ne vient pas du salaire, ça ne vient pas de la retraite, ça vient des revenus du capital. Hein. ça vient essentiellement des gens qui possèdent le capital d'énormes sociétés, pour dire les choses. Hein, voilà. Eux, ils partent pas parce que par l'optimisation fiscale et par le cadre fiscal aujourd'hui qui existe en France, bah, ils sont assez peu taxés, quoi. En partant de cette base faible, l'étude se penche ensuite sur les évolutions des départs et des retours des hauts patrimoines en cas de modification substantielle de la loi de la fiscalité du patrimoine. Les chercheurs sont allés voir dans le passé et sont allés voir deux chocs fiscaux de référence. Donc ils ont vu les chiffres aujourd'hui du nombre de Français riches qui partent. Il n'a pas été viré de France 3, celui-là, Zizitoun le retour. Alors, j'ai pas été viré de France 3. Par contre, toi, tu viens de l'être. De mon chat. Donc, aujourd'hui, les Français très riches partent pas, et les chercheurs sont allés voir dans l'histoire, elle était bonne celle-là, hein, deux chocs fiscaux, la hausse de 2012-2013, suppression du prélèvement forfaitaire obligatoire remplacé par le barème progressif de l'IR, création d'une tranche supérieure à 45%, ouais, je suis rapide, hausse des prélèvements sociaux, baisse de 2017-2018, suppression de l'ISF remplacé par ce qu'on appelait l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, et création de la flat tax. Alors, les chiffres compilés montrent que ces réformes fiscales ont eu des incidences sur l'expatriation des plus aisés, mais relativement modestes. La hausse de la fiscalité en 2013, par exemple, sur le capital, a entraîné une augmentation des flux de départ, c'est vrai, net de retour des hauts patrimoines concernés, de 0,04 à 0,09% de pourcentage. On est passé de 0,04 d'expatriation de ces Français très riches à 0,09. Conclusion de l'étude, les flux totaux d'expatriation restent très faibles lors des changements fiscaux, quoi. Alors, quelqu'un dans le chat vient de me dire « Ah ben ça a doublé quand même !» Donc ça a sûrement des conséquences économiques de fou, quoi. Même si c'est très peu de gens. Donc le conseil se penche ensuite sur l'effet économique de ces départs, justement. Ces ménages à haut revenu du capital ont un rôle dans l'économie qui dépasse leur poids démographique. Ils pèsent lourd, quoi. Ils pèsent dans le game. Puisqu'ils détiennent une part importante des actifs professionnels. Ce sont des gens qui possèdent des parts importantes d'énormes sociétés en France. Parmi le top 1%, quasiment la moitié est propriétaire de 10% ou plus du capital d'une entreprise. Or, la recherche a montré que l'expatriation d'un propriétaire a des conséquences néfastes sur l'entreprise. Baisse du chiffre d'affaires, diminution de la masse salariale, diminution de la valeur ajoutée. Donc oui, le départ à l'étranger d'une grande fortune française a souvent des conséquences négatives sur l'activité de son entreprise en France. Ces effets économiques directs sont toutefois légèrement compensés par les effets d'équilibre, rachat de l'entreprise par quelqu'un d'autre, réaffectation des salariés, et surtout, ils sont limités dans leur ampleur par le très faible nombre de départs. C'est dans les échos par de l'article. Alors, qu'est-ce que disent ces économistes ? En gros, un changement de la fiscalité sur le capital, quoique celle-ci serait assez radicale, hein, parce que là on parle de ce qui s'est passé dans le passé, mais 2% de taxes sur un patrimoine de 100 millions d'euros, c'est quand même assez radical. Mais les économistes disent, en vrai, changer la fiscalité sur les plus riches en France, ça ne les a pas fait partir massivement. Ça n'a pas eu de vraies conséquences sur l'économie. Mais il y a quand même un avertissement dans cette étude. Malgré cet impact mesuré, les chercheurs avertissent que cela ne saurait présumer des effets totaux de la réforme de la fiscalité du capital. Parce que l'exil fiscal n'est qu'une des réponses possibles des contribuables concernés. Les très très riches n'ont pas que cette solution pour échapper à l'impôt et à cette taxe. Une étude scandinave a montré que leur propension à mettre en place des stratégies d'optimisation fiscale est bien plus importante que la dotation de départ. Exactement, Major Phoenix. Voilà. Ces gens, quand tu as 100 millions de patrimoine, tu as l'argent pour faire appel au cabinet comptable, aux avocats spécialistes, aux experts qui vont te créer le montage d'optimisation via une holding, via plein de choses, qui va te permettre d'échapper en grande partie à l'impôt, ce qui explique en France que... donc tu t'en fiches... Alors, Major Phoenix dit « Donc tu t'en fiches des lois ». Pas du tout, c'est légal. Merci, merci pour l'abonnement. Il y a quelqu'un anonymement vient d'offrir 10 abonnements à la communauté. Merci à toi. Merci à toi, vraiment. Merci Zoro Jurosama. Merci aussi. Donc, non, c'est légal. L'optimisation fiscale, c'est dans le cadre de la loi. C'est dans le cadre de la loi. Ça n'est pas illégal. Ça n'est pas se foutre des lois. C'est profiter des lois qui existent. C'est toute la beauté du truc. Voilà. La justice se paie. Pas du tout. Non. C'est légal. C'est juste que tu payes les gens qui savent bien lire la loi et trouver les petits trucs. Il ne faut pas confondre optimisation et évasion fiscale, comme dit Hazard. Oui, je me suis mal exprimé. Bah oui, mais c'est important. Parce qu'après, il y a les gens qui vont te lire et qui vont dire « Ah ouais, mais c'est des délinquants, les gars. » Non, c'est absolument pas illégal. Donc, ces gens ont la capacité de mobiliser des talents, hein, avocats, comptables, pour échapper à l'impôt. En France, on sait que les très, 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 très riches payent proportionnellement moins d'impôts que les riches. Hein. Qui, ne se font pas accompagner de façon aussi efficace. Voilà. Et en fait, ces chercheurs disent, les gars, si on crée cette taxe, il y a de fortes chances que les ultra-riches y échappent en grande partie, pas parce qu'ils vont partir, mais parce qu'ils vont se débrouiller pour placer leur argent différemment. Merci, Locke Léa Rachange. Voilà. Le débat public en se focalisant sur l'exil fiscal se trompe sans doute de public, de cible, pardon, disent les experts. Voilà. Pas mal, hein? Alors, oui, après, Jean-Marc dit qu'il faut limiter les niches et optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'il faut d'autres lois. Quel serait l'intérêt pour l'État français de cette taxe? De faire rentrer beaucoup d'argent. La taxe Zucman rapporterait des milliards à un pays qui a un déficit budgétaire de fou, quoi. C'est l'idée que tout le monde doit faire un effort. Je vous lis. Il y a des riches riches et des riches pauvres. Non, il y a des riches très riches et des riches riches. Petit Clem. % du patrimoine autodidacte. C'est pas 2% des revenus, donc c'est 2% du patrimoine. C'est 2%, on prendrait chaque année 2% du patrimoine des gens qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros. Bon, après, ils sont en capacité de retrouver ces 2% assez facilement en faisant fructifier leur capital, mais... Moi, je suis riche en amour, me dit C'est Breton, mais tu as bien de la chance. C'est la plus belle chose. Très bonne question du Bucoap. Derrière tout ce débat, en fait, qui on taxe, où on va chercher l'argent, qu'est-ce qu'on dépense, il y a la question de la dette. Voilà. Et il y a une partie des gens qui disent, politiques, économistes et citoyens, qui disent, mais on en fait trop avec la dette. Bucoap pose la question et elle est très bien posée. Samuel, penses-tu qu'on en fait trop avec la dette actuellement? On parle de la dette tous les jours. Le plus inquiétant, c'est le remboursement de la charge de la dette. Et une bonne partie se fait via le roulement de la dette. Le problème ne réside-t-il pas dans le bon usage de la dette? Si, tu as raison. Le problème, contrairement à un foyer, à une personne ou à une entreprise, la dette d'un État, d'un pays, n'a pas vocation à être remboursée. Ce que le pays doit rembourser, ce sont les intérêts de la dette. On est bien d'accord. Et la dette, c'est pas une mauvaise chose. La dette, c'est ce qui aussi permet à un État d'investir dans sa santé, dans son éducation, dans des réformes structurelles. Voilà. En revanche, comme tu l'as dit toi-même, le problème aujourd'hui en France, ça n'est pas la dette qui est gigantesque, c'est la charge de la dette, ce sont les intérêts de la dette. Et comme vous le savez, ce poste des intérêts, uniquement les intérêts de la dette, pas rembourser le capital mais les intérêts, eh bien, est en train de devenir le premier poste. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais pour la deuxième fois, il y a peut-être la même personne, un viewer anonyme qui vient d'offrir 10 abonnements à la communauté. Merci beaucoup, merci du soutien. Merci Yépiquet, merci aussi. GG l'anonyme, comme dit Iron Deal. Et donc, ce poste des intérêts de la dette est en train de devenir le premier poste de dépense de l'État. Alors, certains disent que ça y est, il est même passé devant, le poste de l'éducation, devant le poste de la défense, quoi. Et ça, c'est ennuyeux. Sugar Frog pense que la personne qui vient d'offrir les 10 abonnements de la communauté, c'est quelqu'un qui a gagné au loto et qui se teste pour les events avant les 10 millions. Avant le million, putain, je suis passé à 10 millions déjà. Ah oui, c'est parce que je suis en train de préparer le financement de la campagne. Et le problème, c'est cet argent qu'on donne à ceux qui nous ont prêté de l'argent, dont vous faites partie certains qui ont de l'épargne, puisque la dette, elle appartient en partie d'ailleurs aux investisseurs français, aux épargnants français, contrairement à ce qu'on peut penser, hein, elle n'est pas à l'étranger, principalement cette dette. Cet argent, il sert à rien. Cet argent, il n'est pas investi. Il n'est pas investi dans l'éducation, dans la sécurité, dans la santé. Il est donné à ceux qui nous prêtent de l'argent. Hein. Une partie importante de la collecte chaque année en France de l'IR, de l'impôt sur le revenu, de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, de la TVA, de toutes les taxes possibles et imaginables, une partie importante de cet argent, il est donné à ceux qui nous prêtent de l'argent. Donc c'est remboursé. Non, Gisèle, on ne rembourse pas le capital, on ne fait que rembourser les intérêts. On parle de la charge de la dette des intérêts. C'est le problème des intérêts. Ouais, mais enfin bon, ça fait beaucoup d'argent qui sert à rien, quoi. C'est ça la question aujourd'hui. Merci Drakeos pour ce magnifique raid. N'hésitez pas à suivre la chaîne de Drakeos, un streamer qui vous parle d'actualité tous les matins également. Bah si l'argent des intérêts à la dette, ça va avoir la dette. Alors AKNC, je suis d'accord avec toi, j'allais le dire d'ailleurs. Mais quand ça prend cette proportion-là, cet argent de l'intérêt de la dette qui est en train de devenir le premier budget de l'État, il n'est pas mis ailleurs. Il n'est pas mis ailleurs. On va aller jusqu'à combien ? Quoi, un jour, la moitié du budget de l'État, ce sera à charge de la dette ? Cet argent, on ne le mettra pas ailleurs. Donc, c'est quoi la solution ? On va augmenter à l'infini les taxes et les impôts. Voilà. Ou alors, on va réduire énormément les dépenses. Moins d'argent pour l'éducation, moins d'argent pour la santé, moins d'argent pour la redistribution en France ? Hey. Pourquoi ne pas réduire le taux d'intérêt de la dette ? Me demande Zoram. Bah ça, c'est pas nous qui le maîtrisons. Ce sont les marchés financiers qui... Bon là, il y a un truc de folie qui se passe sur la chaîne ce matin. Ce sont les marchés financiers qui estiment que la dette française est risquée ou pas. Plus on a des doutes sur l'état de notre économie, et plus on nous prête cher. Voilà. Puisque c'est mal fait, mais c'est comme ça. Plus tu es riche, et plus tu vas bien, et plus on te prête de l'argent à pas cher. Et là, aujourd'hui, les taux d'intérêt de la France, ils dépassent les taux d'intérêt de pays comme le Portugal et l'Italie, quoi. C'est pas toi qui maîtrises. Il y a une personne, sans doute la même personne, qui vient d'offrir encore 10 abonnements à la communauté. Merci à toi. Merci Roméo, merci Drindrin. Une pluie de sub. Voilà. Bon, on aura de nouveau ce débat, puisqu'on en parle quasiment tous les jours. On en parle tous les matins, n'hésitez pas à revenir, ça nous fait plaisir. Merci Moa, merci pour le prime. Sujet suivant. C'est pas parce que le sujet n'est pas intéressant, c'est que... on essaie de balayer toute l'actualité le matin. Là vous avez vu ceux qui sont arrivés pour la première fois. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, mais c'est cool ton rendez-vous d'actualité politique, c'est tous les matins. Alors, ça n'est pas un rendez-vous d'actualité politique, c'est un rendez-vous d'actualité dans lequel on parle beaucoup de politique, mais on essaie de balayer le reste de l'actualité. On va parler d'un suicide dans l'éducation nationale ce matin. On va parler de choses plus légères aussi. On va parler de cinéma ce mercredi. On va parler aussi de l'état de santé de Donald Trump. Parlons-en justement. Salut Drakeos. Ce que les mains de Trump nous disent de sa santé. Voilà. Dans le chat ces derniers jours, j'ai vu des messages. Mais pourquoi tu ne nous parles pas de Trump ? il est malade, il va mourir, t'as vu ses mains? Bon, j'ai pas vu, je passe plus le temps dans les journaux que sur les réseaux, et donc j'avais pas vu ces histoires. Et quand j'ai vu l'article du Parisien ce matin, je dis, ah ok, c'est de ça dont on parle. Il y a des interrogations sur la santé du président américain. Plusieurs photos du président américain montrent des ecchymoses sur sa main droite. De quoi relancer le débat sur sa forme au moment où son vice-président se dit prêt à lui succéder en cas de tragédie. Ah, il a dit ça, son vice-président ? Waouh ! J'aurais été Trump, j'aurais pas trop aimé. Les poignées de main de Donald Trump sont connues pour être viriles, hein, au point de lui provoquer des ecchymoses largement visibles sur des photos relayées ces derniers jours pour l'interrogation. Cette explication avancée par la Maison-Blanche est possible, mais elle n'est sans doute pas la seule, pointe plusieurs médecins. Donc d'après la Maison-Blanche, ça je ne l'avais pas vu, les ecchymoses sur les mains de Trump, c'est parce qu'il serre des pognes un peu trop fort. Ok. Ce débat politico-médical qui agite les réseaux sociaux survient dans un contexte où la santé du président américain, qui soufflera ses 80 bougies quand même en juin prochain, on aime ou on n'aime pas le personnage, moi je ne suis pas un grand fan de Trump, hein, je n'ai jamais caché, mais bon. Le mec 80 ans, il a un peu il a la pêche quand même. Bon, en même temps, il joue beaucoup au golf. Mais bon, quand même, quoi. Escoté de très près. Jeudi dernier, le vice-président, J.D. Vance, a même affirmé qu'il était prêt à remplacer Donald Trump en cas de tragédie. Voilà, ça, j'aurais pas aimé. Hein. Moi, je suis président américain. J'approche des 80 piges. Il y a mon vice-président qui déclare officiellement « Moi, je suis prêt à le remplacer en cas de tragédie. » Ah, je peux te dire, je prends mon téléphone, je lui dis JD, tu vas passer dans le bureau. Hein. Non mais attends, c'est bizarre. Ça. Du coup, 3 jours plus tard, Trump a répondu, je ne me suis jamais senti aussi bien. Non mais attends, mais d'où l'autre? Calife à la place du calife, tout ça quoi. Merci à Noni99 pour le Prime. Merci Bruno Le Cadre, merci Roméo, merci Drinrin. Non mais c'est fou quoi. Mais l'irrévérence, quoi. Il répondait à une question. Ouais, mais il est pas obligé de répondre, il ferme sa gueule aussi. Hein. C'est pas très respectueux, quoi. Moi, je serais Trump, je me méfierais d'un verre offert par J.D. Vance, quoi. Tiens, je t'ai préparé un petit cocktail, un petit smoothie. Prudence. Un petit remontant. Ouais. Alors, redevenons sérieux. Reste cette question très sérieuse, d'où viennent ces ecchymoses aux mains, parfois allègrement recouvertes de fond de teint qu'on voit sur d'autres récentes photos. Bon bah moi et vous le savez, on préchote un peu des taches comme ça sur les mains des personnes âgées, hein, 80 ans on peut estimer que c'est une personne âgée, des taches comme ça, on en voit beaucoup, on a tous eu des parents, des grands-parents un peu âgés dans le chat ou des arrière-grands-parents, et ça c'est, enfin, je suis pas médecin, mais c'est des choses qu'on voit assez classiquement, je pense qu'on est plus sensible aux ecchymoses, quoi. Bon, lisons l'article. Elle serait la marque d'un purpura sénile de Batman. Hein ? Il y a une maladie qui s'appelle le purpura sénile de Batman. Batman. Mais quel rapport avec la chauve-souris ? Là, je comprends pas, là. Trump, c'est Batman ? Mais qui est Robin ? Qui est Bruce Wayne ? Où est la cave ? Où est la Batcave ? Je comprends rien. Donc, en vrai, non, il y a un médecin anglais qui s'appelle Thomas Batman qui a décrit cette maladie au début du 19e siècle. Voilà. Avec l'âge, les vaisseaux sanguins s'affaiblissent. Ah bah ok, bah c'est ce dont je parlais. En cas de choc ou de traumatisme, t'es vieux, tu te cognes sur une table, hein, ou tu tapes sur ton poing parce que dans le chat, ça raconte n'importe quoi. Je prends un exemple au hasard. Des saignements surviennent sous le derme et provoquent ces ecchymoses. Voilà. Et puis je suis sûr que vous avez observé ça chez les personnes âgées autour de vous. Même des frottements spontanés peuvent en provoquer. Des gens consultent d'ailleurs parfois avec inquiétude car ils ne se souviennent pas d'avoir eu de petits traumatismes au niveau des mains, explique un dermatologue. Ces lésions guérissent spontanément, mais elles se renouvellent fréquemment. Voilà. Du coup, c'est un signe de vie. Fais voir tes mains, Samu. J'ai pas encore, mais je vais avoir bientôt. Je vais avoir bientôt. Voilà. Et comme Trump a pas trop envie de montrer qu'il vieillit, bon, d'où le fond de teint, quoi. Les poignées de main répétées chez un presque octogénaire peuvent donc contribuer à la formation de ce type de tâches. Mais dans le cas de Donald Trump, d'autres éléments sont à prendre en compte. Le docteur Michael Roizen pointe notamment sa pratique du golf. Ah, ah, hein. Ça fait mal aux oreilles quand tu tapes sur ton bureau, ton micro capte le son, ça nous fait des basses dans les casques plutôt désagréables. Bah t'inquiète, bientôt je vais arrêter. Bientôt je vais arrêter parce que comme je vais vieillir, si je continue à faire ça, je vais avoir des taches violettes. Et sur les réseaux sociaux, on va dire que je vais mourir. Je vais arrêter de taper. Hein. Et donc le golf aurait, serait une explication aussi. Hein. On peut se cogner la main en retirant les clubs du sac, car ils sont relativement serrés. Trump est aussi souvent exposé à la lumière du jour en jouant au golf. Or, les UV contribuent à ces ecchymoses. Par ailleurs, le président américain prend de l'aspirine en prévention de troubles cardiovasculaires, comme indiqué dans son bulletin médical rendu public en avril. Or, ce médicament est connu pour exacerber les ecchymoses. Ben. D'accord. En fait, voilà, il est vieux, quoi. Autrement dit, les mains de Trump nous rappellent avant tout que le président américain n'est plus tout jeune. Le fait, et le docteur Scrivener d'expliquer, le fait qu'il cherche à cacher ses ecchymoses avec du fond de teint montre qu'il n'accepte pas son âge, comme beaucoup de gens. Moi, je connais des streamers sur Twitch, ils sont très très vieux. Hein. Très vieux. Les gars, ils sont au bord de l'EHPAD, ils sont au bord de la tombe. Hein. C'est plus très en forme. Ça fait le jeune. Hein. Ça joue aux jeux vidéo. Hein. Ça dit frère aux copains et tout. Ça fait genre... Alors que les mecs sont quasiment au bord du cimetière. Quoi. Donc, ça arrive. Hein. Quand elle intéressait, lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, il a estimé que ses spéculations étaient des « fake news, your fake news ». Voilà. Ouais, il y en a même qui jouent à Valo. Ouais. Salut Skyby. Merci Strapos Gaming. Merci Edista. Merci Tuto HR. Il s'est assez moqué de Biden à son tour. C'est vrai que Trump s'est beaucoup moqué de l'âge de Biden. Donc, Oh, c'est marrant parce que Malika, au même moment, écrit, s'est beaucoup moqué de son opposant par rapport à son âge. Il essaie juste de paraître plus jeune. Le Baptiste, le micro, c'est un Shure S-H-U-R-E S-M-7-B. Donc voilà pour Trump. A priori, les gars, c'est de l'âge. On va partir sur un sujet qui est extrêmement sensible, qui est très triste. Faites pas attention à la pub. Hein. Dans les journaux, il y a de la pub. Voilà, on va parler du suicide d'une enseignante, d'une directrice d'école. Donc je vais vous demander un maximum de respect. Voilà. Et puis bon, effectivement, dans le Parisien, il y a une pub pour du pinard. On s'en fout. Donc si vous pouviez éviter de faire des blagues débiles sur les bouteilles qu'on voit là, hein, et plutôt, par respect pour cette personne qui vient de se donner la mort, qui a choisi de se suicider le jour de la rentrée scolaire. Donc je serai intraitable là dans le chat sur. Je veux pas de blague là-dessus, je veux pas de conneries, je veux pas de propos déplacés sur les enseignants, ça va dégager direct. Hein. Parce qu'à un moment, c'est gravissime ce qui vient de se passer. Quoi. Donc j'en fais appel à votre intelligence. C'est une histoire qui finira mal. Depuis qu'elle avait quitté son école, cette directrice, ça s'est passé dans le Cantal, qui s'est donc suicidée lundi, le jour de la rentrée scolaire, était visée par des insultes et des tags homophobes. Elle faisait souvent état de son mal-être auprès de ses collègues et le problème, c'est que, manifestement, elle n'a pas été vraiment entendue par sa hiérarchie. Quoi. Quentin Lyon, non. Je réponds à la question de Quentin Lyon, je réponds non. La question de Quentin, c'est « Samuel, est-ce que tu penses que l'homosexualité ne doit pas rester chez soi et plus devant tout le monde ?» La réponse est évidemment non. Quentin, tu ne t'en rends pas compte, mais ton propos est homophobe. Voilà. On vit la sexualité qu'on veut, et on la vit librement, et on la vit comme on veut. Voilà. Ton propos, Quentin, je t'invite à réfléchir dessus, il est homophobe. Tu ne t'en rends peut-être pas compte. Ah, et Quentin nous dit « je suis d'accord ». Et Quentin nous dit « je suis d'accord ». Ta question était mal formulée. Comme quoi, parfois, il ne faut pas... Et on va rappeler par cette affaire qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens en France qui tiennent encore des propos homophobes, ici, de façon anonyme, puisque cette personne, cette directrice, était visée par un corbeau, quelqu'un qui faisait des tags homophobes, voilà, en cachant son identité. Quoi. Homophobe et pleutre. homophobe et queer. Homophobe et lâche. Lisons l'article. Le 15 avril, dans un message privé à une collègue, Caroline Grandjean, directrice d'école, qui s'est suicidée le jour de la rentrée, laissait déjà deviner la fin tragique qui l'attendait. Dans ce message, le 15 avril, cette directrice d'école disait « C'est une histoire sans fin qui finira mal ». Depuis plusieurs mois maintenant, elle avait pris l'habitude de confier son mal-être et le sentiment d'injustice qui la rongeait. Victime d'insultes homophobes, sale Gwyn, Gwyn égale pédophile, tagué sur les murs de son école, tagué sur les murs de son établissement, hein, à Moussage, dans le Cantal. Cette enseignante de 42 ans, mariée à une femme, n'avait pas eu la force de reprendre le travail à la rentrée 2024, trop fragilisée, meurtrie par les insultes et le soutien qu'elle jugeait trop timide de sa hiérarchie et de la commune où l'exerçait. Vous imaginez, vous êtes enseignant, vous êtes directeur d'école, vous avez fondé un foyer, vous êtes marié, vous allez à l'école, sur les murs de votre école, vous avez des tags homophobes, quoi. Vous imaginez la violence de ça. Et vous imaginez la plus grande violence encore de ne pas se sentir soutenu par sa hiérarchie. Et je crois que c'est encore plus violent. Trop fragilisée, meurtrie par les insultes et le soutien qu'elle jugeait trop timide de sa hiérarchie et de la commune où elle exerçait. En arrêt de travail, donc, elle avait passé la dernière année scolaire à ruminer des idées noires jusqu'à son suicide lundi, après avoir sauté d'une falaise haute d'une trentaine de mètres. La rentrée, c'est toujours un moment très difficile pour moi, avait écrit cette directrice d'école. Très concrètement, l'enquête n'avance pas. N'étant plus à l'école, il n'y a évidemment plus de tag homophobe. Eux, là-bas, ils ont gagné, puisqu'on ne sait toujours pas qui a fait ces tags. Ils ont une remplaçante à l'école, elle s'engage à fond. Je crois que la hiérarchie a gagné aussi, puisqu'il n'y a plus de problème, confiait-elle le 10 janvier sur un forum où les directeurs et directrices d'école ont l'habitude d'échanger. Caroline Grandjean n'a pourtant pas été toujours cette fonctionnaire. Vous allez voir comme c'est triste. Dévastée par l'abjection d'un ou de plusieurs corbeaux, puisque c'est plusieurs personnes, on ne sait pas, que l'enquête de gendarmerie n'a jamais permis d'identifier. C'était le soleil de notre promo, écrivait un ancien camarade de l'Institut universitaire de formation des maîtres où elle avait étudié. C'était le soleil de notre promo. Elle avait la pêche, la joie de vivre. Elle nous a fait marrer un paquet de fois. Si vous l'aviez vu imiter le cri du paon, jouer au volet en sautant comme un cabri, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? De la joie de vivre, à la dépression, au suicide, quoi. La réponse ne se trouve pas vraiment à Moussage, le village isolé des monts du Cantal qu'elle avait rejoint en 2022. Mine grave, visage fermé, les 250 habitants préfèrent se murer dans le silence au lendemain du suicide de l'institutrice. L'émotion est palpable alors que la nouvelle de sa mort s'est répandue comme une traînée de poudre devant les cris de l'école. L'établissement où résonnent d'ordinaire les rires de la douzaine d'élèves de la classe unique semble lui aussi figé. C'est là, sur le mur du préau, qu'est apparu le premier graffiti homophobe en décembre 2023. Je ne ferai aucun commentaire lâche, prudente, la nouvelle directrice, qui vit sa toute première rentrée. Je ne la connaissais pas, je n'ai pas le droit d'en parler. Autour d'elle, les parents accompagnent leurs enfants en silence. Pas un mot, sauf celui, constate le journaliste du Parisien, d'une écolier d'une dizaine d'années. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid, lance-t-il, sous le regard médusé des adultes. Seul Julien Audinet, représentant des parents d'élèves, accepte de témoigner. C'est une nouvelle choquante et très triste. On savait qu'elle avait été victime d'insultes homophobes, que des tags ignobles étaient apparus sur les murs de l'école et même dans sa boîte aux lettres. Cela nous avait tous bouleversés. Son homosexualité n'a jamais été un sujet ici, mais le fait qu'on puisse s'en prendre à elle de cette façon, ça nous avait profondément choqués. Nous l'avions soutenue à chaque fois. À la mairie, le téléphone ne cesse de sonner, mais le maire Christian Vert est en vacances jusqu'à la fin de la semaine, répète la secrétaire. Embarrassée dans le bourg, les habitants baissent les yeux, se dérobent derrière les portes. J'ai trop peur, glisse l'épicière, qui est l'unique commerçante du village. Je ne comprends pas comment on a pu en arriver là, dans un endroit comme ici. Tout le monde devrait s'entendre. Faut espérer qu'on retrouve celui qui a fait ça, souffle François, agriculteur à la retraite, abasourdi, puis il sautait un instant, mais je ne suis pas sûr qu'on le saura un jour. Selon la procureure d'Aurillac, l'enquête ouverte par le parquet n'ayant pas permis d'identifier les auteurs, l'enquête a été classée en mars. On saura sans doute jamais, en l'absence de nouveaux faits. De son côté, le ministère de l'Éducation a annoncé ce mardi soir dans un communiqué avoir saisi l'Inspection générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche pour réaliser une enquête administrative à quelques jours du 5e anniversaire du suicide de Christine Renon, directrice à Pantin. Accablée, elle, par les tâches administratives, la profession est à cran. On pleure notre collègue. Nous sommes en colère contre nous-mêmes qui n'avons pas saisi l'alerte, mais aussi en colère contre l'institution qui n'a pas protégé Caroline, témoigne cette chef d'établissement des Côtes d'Armor. Il y a quelques jours, une question avait émergé sur le groupe de discussion des directeurs d'école. Qu'est-ce qui a changé depuis la mort de Christine Renon ? Rien, avait alors réagi Caroline Grandjean. Mais moi, aujourd'hui, je la comprends, avait-elle ajouté. Je vous lis. Dans un village si petit, il y a des personnes qui se baladent avec des bombes de peinture pour taguer dans une école. Je pense que les parents camouflent tout ça et que certains savent, me dit Bobby le sanguin. Salut Oli. Elle aurait dû démissionner de son poste, vivre sa vie autrement si les instances ne sont pas capables de la protéger, Universalis. Sa hiérarchie lui avait proposé de partir loin pour régler le problème, d'être nommée dans une autre région. Elle avait dit, ça n'est pas à la victime de fuir. Ça n'est pas à la victime de fuir. Ça n'est pas à la victime de fuir l'agression. C'est à nous, société, de protéger les victimes. Et elle avait raison. C'est pas à elle de partir, c'est pas à elle de changer. Dans le chat, tout à l'heure, j'avais une question intéressante. Mais si ça se trouve, c'est des enfants. C'est les enfants qui ont fait ces tags. Peut-être. Mais comment un enfant peut-il, à un moment, imaginer d'aller se procurer une bombe de peinture pour écrire un propos homophobe de cette violence sur le mur de l'école ? D'où peut venir la pensée homophobe d'un enfant ? D'où vient-elle ? D'où peut-elle venir ? On est tous d'accord pour se dire que ces propos homophobes, il les a entendus ailleurs, il est entendu dans la bouche d'adultes, de proches, peut-être de parents. Donc, à supposer même que ce soit les enfants qui aient commis ces tags homophobes, il y a une responsabilité parentale derrière. Donc voilà, je voulais vous parler de ce sujet ce matin, voilà, qui pose la question de l'homophobie persistante dans notre pays. Hein. C'est pour ça qu'ici, c'est l'un des types de propos évidemment qui ne sont pas tolérés, qui sont instantanément sanctionnés. D'un problème au niveau de la hiérarchie de l'éducation nationale qui ne soutient pas assez ses enseignants. Quoi. Face à beaucoup de sujets, dont celui-ci. Je vous lis. Voilà, on a que j'en parlais, mais en tout cas, je voulais avoir une pensée pour cette femme et aussi son épouse, puisque l'article nous a expliqué que cette dame était mariée, cette directrice d'école, et donc aujourd'hui elle a une veuve, quoi. Donc pensez à cette famille. Puisqu'on... désolé pour l'enchaînement, mais on parle de santé mentale désormais, qui est un sujet dont on parle régulièrement ici, qui me semble important, dont on parle pas assez dans notre société. Et on a, depuis quelques mois, quelques années, plusieurs études qui nous alertent sur la santé mentale des jeunes Français. Alors, ils ne sont pas les seuls à aller mal, mais il y a une dégradation de la santé mentale des jeunes en France, et on a un sondage, une nouvelle étude qui en parle. La Guerta, le Proche-Orient, en parle quasiment tous les jours ici. Donc je pense que tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à venir. Le matin, tu verras, on en parle tous les jours sur Twitch et TikTok. Sinon, si tu es très pressé de savoir ce que j'en pense, tu peux aller voir mes replays sur le sujet. Mais n'hésite pas à revenir ici. Merci Fleuret Bleu pour le soutien. Merci Marco, merci Michigan, merci Milanda. Qu'est-ce qui se passe avec la santé mentale des jeunes? Un jeune sur quatre en France serait dépressif. C'est énorme. Dépressif. Un jeune sur quatre en France serait dépressif. Un récent sondage met en évidence une dégradation de la santé mentale des 15-29 ans. Pour ceux qui demandent c'est quoi jeune. La question de la santé mentale érigée en grande cause nationale en 2025 s'est imposée dans le débat public, notamment celle des jeunes, dont ceux dont la sortie de l'enfance a coïncidé avec la crise sanitaire. On sait que la crise du Covid a joué un rôle aussi dans cette dégradation. On ne compte plus les alertes du monde médical, les enquêtes de santé publique concernant cette génération du Covid-19, également marquée par un contexte géopolitique et environnemental très anxiogène. Certains parlent de la responsabilité de l'actualité. L'actualité, ne cassez pas le thermomètre, hein. L'actualité nous parle des changements climatiques, nous parle d'un contexte géopolitique extrêmement tendu en France. Le problème, ce n'est pas tellement l'actualité, même s'il faut se prémunir du caractère anxiogène de l'information. Ce n'est pas en cassant le thermomètre que la planète ira mieux. Mais que disent les jeunes eux-mêmes de cet état moral et psychique? Comment évaluent-ils leurs symptômes, leurs souffrances? À qui en parle-t-il? Quel soutien? On reparle de soutien, escompte-t-il? L'enquête rendue publique aujourd'hui par l'Institut Montaigne, la Mutualité Française et l'Institut Terram entend apporter des réponses en valorisant le constat des intéressés. On a demandé aux jeunes vraiment d'en parler. Donc on a 5633 jeunes de 15 à 29 ans qui ont été interrogés pour cette enquête. Habitudes quotidiennes, ressenties par rapport aux études, au travail, capacité ou incapacité à se projeter, avenir souhaité ou redouté, merci Petit Biscuit. 23 questions ont été soumises. Voilà. Évaluation subjective, hein, ce n'est pas tous les jeunes, voilà, mais si vous connaissez un petit peu la question des statistiques et des sondages, un panel de plus de 5000 personnes, c'est assez intéressant. Une évaluation subjective, donc, mais qui donne à voir une souffrance mentale répondue. Si près des deux tiers des jeunes, 64%, jugent leur santé mentale assez bonne ou très bonne, 42-22%, la fréquence et la nature des symptômes qu'ils évoquent dans le même temps nuancent le tableau général. Plus de 8 sur 10 affirment par exemple avoir ressenti une fatigue persistante ou un manque d'énergie au cours des deux semaines précédant l'enquête. Près des 3 quarts des troubles du sommeil. Plus de 6 sur 10 un sentiment de tristesse, de déprime. Penser qu'il vaudrait mieux mourir ou envisager de se faire du mal, évoqué par 31% des répondants. Quelqu'un me demandait tout à l'heure, c'est quoi la dépression ? Un chiffre interpelle, 25% des 15-29 ans seraient atteints de dépression, selon cette auto-évaluation, avec de fortes disparités selon les régions, d'où la carte qu'on va aller voir, la carte de France. Par exemple, on est à 25% en moyenne, on est à 19% en Bourgogne-Franche-Comté, on est à 28% en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse, on est très haut en Île-de-France aussi, 27%. Les statistiques s'envolent en Outre-mer, 37% à la Guadeloupe, 52% en Guyane. Hein, et ce sont des chiffres supérieurs à ceux issus des baromètres antérieurs. En 2021, on n'avait que 20,8% des jeunes concernés par la dépression. En 2017, il n'était que 11,7%. La dépression atteindrait, selon ce nouveau sondage, un pic autour de 22-25 ans. Et toucherait davantage de jeunes femmes, 27%, que de jeunes hommes, 22%. Un constat chiffré qui appelle à la prudence, car si le questionnaire dont on parle est fréquemment utilisé, le PHQ-9, qui est un questionnaire qui existait avant cette enquête, le diagnostic de dépression, évidemment, ne peut être posé que par un professionnel. après un entretien et en évaluant l'effet du mal-être sur le fonctionnement au quotidien. Comment expliquer que seulement 14% des jeunes considéraient aller mal ? Parce qu'on a quand même un jeune sur quatre qui se dit dépressif, mais paradoxalement, dans cette enquête, on n'a que 14% des jeunes qui considèrent aller mal. Étonnant, hein ? Ces données révèlent un décalage entre la perception globale de l'état psychique et le vécu symptomatique, dit un spécialiste, enfin un des auteurs de l'enquête. Sans surprise, le sondage met en avant une surreprésentation des jeunes en difficulté économique et sociale parmi ceux qui vont mal. La santé mentale ne peut être pensée sans une attention très fine portée aux inégalités sociales et spatiales, géographiques, d'exposition et d'accompagnement. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'après l'étude, c'est dans... quelqu'un me demande dans quel journal, c'est dans Le Monde. D'après l'étude, les jeunes vivant en zone rurale semblent plus protégés de la dépression. 11% se déclarent en mauvaise santé mentale, contre 17% dans les grandes villes, dans les métropoles. En guise d'explication, pourquoi moins de apparemment de situations dépressives en milieu rural, les auteurs évoquent un cadre plus protecteur, plus familial en zone rurale, un isolement plus fort, des vulnérabilités économiques plus fréquentes dans les métropoles, notamment pour les étudiants. Hein, seul parmi la foule, quoi. Alors le constat, et puis peut-être un peu le pourquoi. Au centre des préoccupations sur ses possibles conséquences sur la santé mentale, la question de l'omniprésence des écrans occupe une large place. Sur ce sujet aussi, les résultats du sondage interpellent. Plus l'usage des réseaux sociaux est prolongé, plus le bien-être déclaré se détériore. Il y a un lien, une corrélation, alors peut-être pas de cause à effet, entre le temps passé sur les réseaux sociaux et la santé mentale. 44% des jeunes interrogés déclarent y passer entre 1h et 3h par jour, et 30% entre 3h et 5h. Il n'est toutefois pas toujours simple de savoir si c'est cet usage intensif qui est la cause du mal-être psychique, c'est ce que je vous disais à l'instant, ou une manifestation de difficultés psychiques déjà présentes. Est-ce qu'on passe des heures et des heures et des heures et des heures sur les réseaux sociaux parce qu'on va pas bien, ou est-ce que c'est parce qu'on passe des heures et des heures et des heures sur les réseaux sociaux qu'on va pas bien ? Les réseaux sociaux ne sont sans doute pas à l'origine exclusive du mal-être, mais ils en sont potentiellement le miroir, le catalyseur, ou le poison silencieux, note le document. Dans le même temps d'ailleurs, dit l'enquête, ces réseaux sociaux et les influenceurs sont devenus pour 31% des sondés parfois une source d'information sur leur santé mentale. Ici on en parle régulièrement. Alors, vous savez que, et je vous le dis à tous, ceux qui sont concernés dans le chat aujourd'hui par des soucis de ce type, il faut en parler, ne pas rester seul. En parler à vos proches, si vous pensez que vos proches sont en capacité de vous accompagner, de vous entendre, de vous écouter, de vous comprendre, ça n'est pas toujours le cas, et sinon, d'aller voir un professionnel. L'un n'excluant pas l'autre, d'ailleurs, ne restez pas seul. Il y a des gens qui sont là pour vous, il y a des gens qui sont là pour vous parce qu'ils sont à vos côtés, des amis, des proches, parce qu'ils sont en capacité de vous comprendre, de vous entendre. Et si les proches ne sont pas en capacité d'eux, parce qu'ils ne sont pas là ou pas compétents et ouverts, allez voir un professionnel de santé. Ne restez, un médecin pour dire des choses. Je dis, voilà. Ne restez pas seul. Or, 4 jeunes sur 10 déclarent ne l'avoir jamais fait, d'aller voir un professionnel de santé et de n'avoir jamais ressenti le besoin. Manque de professionnels, délai d'attente très long pour les rendez-vous, coûts, les difficultés de prise en charge sont grandes. Interrogés sur leurs attentes, les jeunes évoquent d'ailleurs, parmi leurs demandes prioritaires, un meilleur accès aux soins et à l'information. Ça n'est pas facile de franchir le pas, je sais. Etche Boost me dit dans le chat, être suivi a été le premier pas de ma guérison, même si la route va être longue. Le problème, c'est que certains n'ont juste pas envie d'en parler. Je sais, Gabdav, c'est toute la difficulté. Comment trouver un professionnel dans un désert médical, me dit Aurélien. Pinsoul nous dit, merci à toi, merci de ton témoignage. Merci à tous de témoigner sur ce sujet. Étant dans cette situation, le gros problème rencontré, c'est la disponibilité de ces professionnels à cause du manque de personnel, mais rendez-vous psy sont maintenant espacés de 4 mois. C'est aussi s'exposer, je suis Snake. Malgré l'usage des réseaux, les sondés sont nombreux à aspirer à un monde plus réel. On parle des jeunes. Les auteurs mentionnent sur ce point une étude de l'organisme britannique British Standards Institution, publiée en mai, indiquant qu'un jeune sur deux aspire à un monde sans Internet. Les sondés sont plus nombreux à aspirer à un monde plus réel. 50%, le chiffre, il est fou. Pas sûr que ce soit la. Internet, c'est un outil. Ça dépend ce qu'on en fait, quoi. Ça dépend du temps qu'on y passe. Personne n'est venu me sonder, lol. Bah oui, parce que c'est pas un référendum, c'est un sondage. Oui, le mot Internet est trop large, je suis d'accord. Et encore, référendum, tout le monde va pas voter. Voilà pour ce sujet qu'on a déjà évoqué sur cette chaîne, mais il y a une nouvelle étude. Si c'est sur Valorant, c'est ok. Ouais, enfin Valorant, je connais un vieux qui y joue, ça rend fou, hein. Ça rend fou, hein. Oui, par exemple, la carte, oui. Plus c'est foncé, plus les jeunes vont mal, ouais. Voilà. Donc ça va pas bien en Île-de-France, ça va pas bien en Bretagne, ça va pas bien en Normandie, ça va pas bien en Auvergne-Rhône-Alpes, ça va pas bien en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Enfin, moins bien qu'ailleurs. Et là où c'est plus clair, ça va mal, mais un peu mieux. Comme notamment en Bourgogne-Franche-Comté, région chère à mon cœur d'ailleurs, c'est intéressant. Merci Pierrot. Voilà, où on est très en dessous de la moyenne nationale. Voilà. En Occitanie aussi, pays de la Loire. Voilà. Voilà. Allez, on termine. C'est une petite revue de presse ce matin, j'étais très court, non? Oui, je suis d'accord avec toi, monsieur Biganon. La carte, elle donne pas beaucoup d'infos. On termine avec une dernière info. Info légère, parce que je ne peux pas vous abreuver de mauvaises nouvelles. Voilà. Et le mercredi, c'est le jour des sorties cinéma. Voilà. Merci, Tégolek. Il y a un film qui sort aujourd'hui au cinéma qui s'appelle Exit 8, qui est aussi le nom d'un jeu vidéo. Voilà, assez connu. Qui est un jeu indé, mais qui a eu beaucoup de succès, qui a été beaucoup streamé à une époque, et dont l'humanité dit le plus grand bien et dit que le film est cool. Ils ont fait un film. Ils ont fait un film, ouais. Voyage au bout de nulle part dans le sous-sol de Tokyo, cinéma, nouvelle expérience nippone, c'est un film japonais. La transformation d'un jeu vidéo en cauchemar existentiel, Exit 8, Exit 8. Un homme doit sortir du métro pour rejoindre sa compagne, et ce qui s'avère plus compliqué que prévu, une espèce de boucle. Un fascinant jeu de loi qui peut rappeler certains concepts oulipiens. Voilà. L'humain a eu un vrai coup de cœur. Lisons l'article, on ira voir la bande-annonce. Donc c'est sorti aujourd'hui. Un film de Genki Kawamura. Copie conforme d'un jeu vidéo japonais également intitulé Exit 8. Ce film de Kawamura, qui est un célèbre producteur d'animé, ajoute à son modèle une dimension humaine et donc des sentiments. Le jeu original est remarquable pour son minimalisme et sa pureté clinique. Hein, je sais que certains y ont joué dans le chat. Hein, n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Il simule le trajet d'un usager du métro de Tokyo se dirigeant vers la sortie 8, exit 8, en évoluant dans un couloir au carrelage blanc immaculé. Le hic, c'est que la sortie semble introuvable et que le personnage virtuel, dont le joueur épouse le regard subjectif, doit rester très attentif à s'il veut s'en sortir, la règle est simple, s'il aperçoit la moindre anomalie, lorsqu'il repasse par le premier segment, il doit rebrousser chemin. Et ce, à l'infini, tant que 8 anomalies n'ont pas été détectées. Elles peuvent avoir traits, ces anomalies au décor, affiches, indications, ou à l'attitude d'un autre voyageur qu'à un moment il croise, quoi. C'est fascinant, lancinant, sans doute réservé aux super geeks, dit Luma à propos de ce jeu. Le film, lui, alors, quel est le rapport entre le film et le jeu? Est-ce que le film est très proche du jeu ou pas? Le film, lui, est à la fois très proche et très éloigné du modèle initial. Ici, non seulement le voyageur n'est pas virtuel, il est incarné par un acteur, mais l'homme qu'il croise non plus, sans parler des autres personnages additionnels qui ont été rajoutés par rapport au jeu, également égaré, une jeune fille et un petit garçon. De plus, il y a un prologue dans un wagon plein de voyageurs, un épilogue, une trame dramatique, puisque le héros vient de recevoir un message de sa petite amie enceinte et il doit la rejoindre à l'hôpital. Le mot geek en 2025, ça fait bizarre, mais on est d'accord. Voilà. Dans les programmes de cinéma, le film est classé dans la catégorie horreur et épouvante. Certes, on retrouve de loin en loin quelques scènes effets de sidération, pouvant rappeler les couloirs de Shining, mais malgré quelques séquences proprement oniriques ou catastrophes, ce voyage au bout de nulle part est surtout stressant pour le spectateur qui partage cette quête inexorable d'une issue. Bref, Luma a aimé le film. Allons voir si on ne peut pas trouver le trailer. Let's go. On met en VF ?
Juste pouvoir créer quelque...
Ça, c'est une pub, ça. Let's go. C'est quoi ce pub là? C'est quoi ce truc là? Iron Man, c'est quoi ça? Ah, c'est une série, ça. Ignoré. Vous êtes prêts? Let's go. Plus thriller, ouais.
Information. Soyez très attentifs aux anomalies.
C'est quoi une anomalie?
Faites demi-tour si vous en voyez une.
Demi-tour.
Si vous n'en voyez pas, continuez d'avancer tout droit.
Putain!
Vous pourrez sortir par la sortie 8.
Homme qui marche. Ok. Homme qui marche, homme qui marche, homme qui marche, homme qui marche,
ok.
Homme qui marche, ok. Ok. Homme qui marche.
Homme qui marche,
homme qui marche.
Ok.
Dis-moi, je fais quoi?
Anomalie.
Enfer.
Je veux sortir.
Ok, vous êtes très nombreux à me dire que ça ressemble quand même exactement au jeu vidéo. Voilà. Quelques critiques aussi sur le fait qu'on a choisi la VF. Je rappelle que moi, personnellement, je préfère les VO, mais que tout le monde n'apprécie pas les VO. En plus, c'est une façon de soutenir les comédiens de doublage français. On a la chance en France d'avoir d'excellents comédiens et comédiennes de doublage. C'est aussi une façon de les soutenir, même si moi, je consomme énormément de VO. Le film a l'air pas mal en vrai. Le film a l'air pas mal. Ouais, on me demande si je pourrais pas jouer à ce jeu au The Event. Oui, mais moi j'ai promis de jouer un. Ok, j'ai un coup de fil de Roumanie. Si quelqu'un qui m'appelle de Roumanie actuellement là dans le chat, je ne peux pas répondre, je suis en live. Pourquoi on m'appelle de Roumanie? Étrange. Voilà. Donc voilà, moi j'ai promis de jouer à un jeu d'horreur, voilà, et j'ai l'impression que c'est plus un jeu de thriller, quoi. Voilà les amis pour ce petit stream. Tac, tac, et tac. C'était bien ce matin, c'était court, hein, dis donc, comment j'ai fait. 2h29, c'est quoi cette revue de presse express? Ah ouais, mais je suis un gros paresseux en vrai. Merci d'avoir été là ce matin. Bon les amis, demain matin, et ce sera une exception dans cette saison 2025-2026, il n'y aura pas de revue de presse. Ici, on va essayer d'être là tous les matins. Du lundi au vendredi, la revue de presse, 9h midi en gros. Parfois, ça commence à 10h comme ce matin parce que je me suis couché tard hier soir avec l'excellent jeu Path of Exile auquel on a joué avec, l'ami AlphaCast sur Twitch. Mais on sera là tous les matins, c'est un peu l'idée, sauf exception. Et exception, il y a, puisqu'il y a The Event. Je pars demain à Montpellier pour m'associer à cette mobilisation incroyable des streamers et des streameuses français pour le The Event, pour collecter le maximum de dons pour 8 magnifiques associations et les actions incroyables qu'elles mènent. Donc je vous donne rendez-vous en live dans un moment de folie, peut-être ce soir sur Val ou sur Twitch. En tout cas, demain, non. Parce que demain, je prends la route pour Montpellier et on lance le live du The Event, comme tous les autres, à 18h. Vendredi, et ça va streamer, pas non-stop, mais quasiment jusqu'à dimanche soir. Et on va essayer d'atteindre à minima les 500 000 euros pour rejoindre à peu près le record de l'an dernier qu'on avait fait sur la cagnotte et se faire un nouveau tatouage en direct, on va bien rigoler. Si vous voulez me voir grimacer et avoir mal pendant 4 heures, rendez-vous. Et puis, idéalement, que ce tatoué dragon puisse se présenter à la présidentielle 2027, qu'on rigole un bon coup. Mais pour ça, il faudra atteindre le million d'euros sur ma cagnotte perso. C'est énorme, mais j'y crois. En tout cas, merci pour ce matin, c'était super. Voilà. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Les amis TikTok, je vous dis au revoir parce qu'on va faire un raid sur Twitch qu'on ne peut pas faire sur TikTok. Donc, je vous dis au revoir maintenant. Mais je vous dis, on se retrouve plus tard, en début de semaine suivante. Voilà. Puisque ce The Event, ce sera à suivre sur Twitch. Donc, amis TikTok, je vous invite à follow la chaîne Twitch et venir nous accompagner, rigoler, passer des bons moments avec nous. Et si vous le souhaitez, si vous en avez les moyens, à soutenir les associations choisies par Zerator et son équipe cette année. Donc, amis de TikTok, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à très vite, notamment pour la revue de presse le matin. Ciao. Amis de Twitch, enfin ensemble. Merci d'avoir été là ce matin. Nous, on va faire un raid en plus du live, bien sûr. Et puis, on va tout donner. C'est quand le prochain stream ici? Il y a un monde où c'est ce soir sur Valo, mais il faut pas. Parce qu'il faut que je prépare mon départ. C'est pas sérieux. Normalement, le prochain live, c'est vendredi 18h. À moins qu'on fasse un petit stream de prépa du setup avec Joe demain matin. Voilà. Et puis après, sinon, ça revient lundi. Ça revient lundi après-midi, pour le débrief du The Event, puisque je dois rentrer à la mi-journée, lundi. Donc il y aura ici, dans ce studio, un stream de débrief du The Event, lundi après-midi. Et peut-être, lundi prochain, lundi soir 20h, une surprise sur cette chaîne. Mais je ne vous en dis pas plus. Voilà. Tu vas live pendant l'événement? Oui. Non, mais je parle depuis le studio, quoi. Ah, excusez-moi. Coup de fil important. Bougez pas. Alors non, ce n'est pas l'appel de Roumanie, c'est y a un seul numéro auquel je décroche quoi qu'il arrive, et c'est mon amoureuse. Voilà, donc c'était Hélène qui m'appelait. Mais il n'y a pas d'urgence, je le rappelle, après le raid. Ok, on se retrouve plutôt ce soir, ou plus tard, dans pas longtemps. Qui est en live? C'est l'amour. Qui est en live? Pop, 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 pop. Non, ça n'est pas Macron, ça n'est pas Bayrou, c'est mon épouse. Arrêtez d'inventer des trucs. Merci GMZ. Merci pour ton message. Alors, voyons qui est en live. Qui on va voir ce matin? Oh, tiens, qu'est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas vu vraiment. Écoutez, je ris parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Voilà. Je vois Romain. Je vois Le Bouzeux qui est en live. Voilà. Il est littéralement à poil. Il est torse poil. Avec plein de beaux tatouages. Il est en train de manger. Le titre du live IRL de Le Bouzeux, je crois qu'il est chez lui. C'est On mange ensemble. Écoutez, le truc est surréaliste. Le mec est super sympa. Rappelez-vous du GOAT Le Bouzeux dans le Gala de Boxe. Rappelez-vous. Rappelez-vous comment il nous a fait rêver, tellement il a souffert. Voilà. Voilà. Et le mec est formidable. Allez, c'est parti. Allons manger avec Le Bouzeux. Il est magnifique. Il est en mode beau gosse là, mais il est à poil. Je sais pas pourquoi, mais il est à poil. À très vite. Prenez soin de vous. Merci pour ce matin. Soyez heureux et merci pour tout. Je sais pas pourquoi il est à poil. C'est en train de se charger. Ça part dans quelques secondes. À très vite. Et merci à Hello Bank. Qui sponsorise ma chaîne, qui soutient ma chaîne pendant tout le mois de septembre, c'est des gouttes. Bye les amis, à très vite.
Du Roman. Un lancer de javelot. Un Aerox. Ah franchement, si c'est un Aerox, ta baisse, c'est incroyable, je pense. C'est ni trop long ni trop court. C'est bien intense. Ça varie sur les plaisirs. C'est top. Oh, Samuel Etienne.